좀 전화 검사도 그때 bon comment c'est d'ailleurs voilà allons-y bonjour à tous et à toutes. Alors, l'organisation de ces séances a été un peu bousculée pour des raisons diverses. Et en travaillant sur le contenu avec Julien, on va vous proposer une réorganisation de ce travail, mais une réorganisation qui nous est apparue à la fin quand même, en un certain sens peut-être plus cohérente en elle-même, et aussi par rapport à l'organisation générale de notre réflexion. Alors, c'est une organisation... Nous allons en fait, si vous en êtes d'accord, consacrer tout de même deux séances à Diderot, ou à partir de Diderot. Non, il y en avait deux qui étaient prévues. La séance du 7 décembre qui n'a pas eu lieu parce que j'ai eu un problème. Donc je m'en suis excusé auprès de vous. La séance d'aujourd'hui qui était prévue sous la formule avoir lieu, et puis on vous propose de consacrer également, mais dans un axe différent, la séance du 11 janvier à la poursuite de cette réflexion autour de Diderot, mais vous allez voir pourquoi. J'espère que la raison précise, déterminée, va apparaître au cours de notre discussion d'aujourd'hui. Et puisque la séance prévue avec Michel Corvin, comme vous le saviez, n'est pas possible du fait de ses disponibilités. Il fait partie de ceux d'entre nous qui ont des problèmes de paternité, on peut dire pas très précoces. J'en suis, donc je le dis très volontiers. En fait, il a la charge d'une petite fille, encore plus jeune que la mienne, moins jeune que le bébé de Bernard, mais enfin, et dont il s'occupe. Et bon, il n'a pas réussi à s'en sortir pour le 11 janvier au matin. Voilà, donc il ne peut pas être des nôtres. On va vous proposer une séance sur ces bases. Après ça... Les séances prévues les 5 février, 19 février et 5 mars, respectivement avec Georges Banu, l'atelier permanent de recherche théâtrale et le metteur en scène Hervé Loachmol sont maintenus comme prévu. Et il y a également une séance du 19 mars qui est en cours de construction, dont je vous parlerai si nous en avons le temps, puisque ce n'est pas tout à fait pressé dans la suite de notre travail. Alors, ce qu'on s'est dit à propos d'aujourd'hui, et ce qu'on vous propose, puisque... Nous avons le plaisir et la chance, et c'est bien naturel, d'accueillir plusieurs participants qui n'ont pas été là dans nos séances précédentes, et ou certains d'entre vous qui n'avaient pas été ou n'ont pu être là à toutes les séances précédentes. Nous avons pensé à commencer par un petit point rapide sur ce que nous nous sommes dit et peut-être ce que nous avons en un certain sens acquis, ou sinon acquis, au moins pointé. Cette petite synthèse, je ne vais pas du tout vous la proposer tout seul, il faudrait que nous puissions la faire ensemble. Je vais l'amorcer, puisque bon, pour lancer les choses, de façon à brièvement savoir où nous en sommes de la question que nous nous posons. Après cela, nous parlerons de deux textes de Diderot que Julien a tapés et photocopiés pour aujourd'hui, mais vous avez dû en recevoir aussi sur votre courrier électronique, dont nous essaierons de situer la façon dont ils interviennent dans notre question, et pourquoi ils sont là, pourquoi en dehors de leur intérêt qui est évident, pourquoi nous les lisons aujourd'hui. Et puis, rapidement, nous en viendrons au texte d'Eisenstein, qui est, comme vous n'avez pas sans doute eu encore le temps de le voir, mais nous verrons ça ensemble, puisqu'on n'a pas pu vous l'envoyer par mail, on a été obligé de le donner en photocopie ce matin, qui est à certains égards un commentaire très inattendu, très étonnant de ces textes de Diderot. Et je remercie beaucoup Youssef, Ichakour, d'avoir accepté d'être des nôtres comme participant à la discussion aujourd'hui. Il a bien tenu à ce que ça soit en ces termes que ça soit posé. En fait, je me réjouis quand même beaucoup de sa présence pour cette discussion autour d'une espèce d'anticipation du cinéma avant même sa naissance. Voilà. Alors, où en sommes-nous, comme dit l'autre? quel est le point où nous nous trouvons? Alors, notre question, je ne vais certainement pas la réarticuler globalement, puisqu'on a consacré une séance entière à le faire, mais je la nomme, je la désigne. Notre question est celle-ci. Qu'est-ce que le théâtre fait à ceux qui le jouent? Alors c'est une question qui vient d'une problématique générale sur le jugement, qui est celle de Liri en grande partie, celle qui nous a été proposée par Bernard Stiegler, dans le cadre des travaux de Liri, et nous nous posons en gros la question de savoir est-ce qu'il y a un jugement de l'acteur pendant qu'il joue ? Est-ce qu'il juge quelque chose ? Est-ce qu'il y a, c'est pour ça qu'on a choisi ce titre, sur la faculté de jouer, on se demande en quelque sorte quel est le rapport entre la faculté de jouer et la faculté de juger. Qu'est-ce que fait l'acteur pendant qu'il joue ? Est-ce qu'il a une activité de jugement ? Alors, les raisons qui nous ont conduit à poser cette question, je ne parle même pas de la question générale du jugement, mais la façon de l'articuler comme ça avec la question de l'acteur, je n'y reviens pas, on les a longuement exposées. Julien a fait une synthèse de cette première séance qui est disponible, ou en tout cas qui est écrite et qui est disponible ou qui va l'être incessamment. Bon, voilà, ça c'est une chose qui est, avec les instruments de Liri par ailleurs, sur lesquels nous travaillons les uns et les autres. Donc, ça c'est la question générale. À partir de cette question générale, nous nous sommes posés, nous avons choisi une entrée historique. C'est-à-dire, cette entrée était le théâtre pédagogique, et en particulier au XVIIe siècle, pour ce qui est des deux dernières séances que nous avons faites respectivement avec Jean-Marie Valentin, la première séance, et Georges Forestier, et d'ailleurs Georges Forestier et Jean-Marie Valentin, pour la seconde, et d'autres éminents érudits ou érudites qui étaient là et qui sont d'ailleurs encore là, pour nous poser la question de la façon suivante, pour alimenter notre problème avec la matière suivante. Si nous nous demandons ce que le théâtre fait à ceux qui le jouent, alors je ne m'explique pas sur la syntaxe de cette question qui est un peu particulière, parce qu'en général on demande qu'est-ce que ceux qui jouent font au théâtre. En général on se demande qu'est-ce que les acteurs font au théâtre. Et nous demandons ce que le théâtre fait aux acteurs. C'est une façon un petit peu d'essayer de déplacer la question. Si nous nous demandons cela, ben, une entrée dans la question était de savoir qu'attendaient du théâtre les institutions, les formations, les courants de pensée qui ont voulu intégrer l'activité théâtrale dans la pédagogie au sens le plus profond du mot. Et en particulier, donc, les collèges de jésuites, pour ce qui concernait les garçons, les hommes, les jeunes gens, et une expérience particulière, la maison de Saint-Louis à Saint-Cyr, pour ce qui concernait les jeunes filles. Donc un immense mouvement historique et social, les collèges de jésuites, et puis une expérience particulière, l'expérience lancée par Madame maintenant à Saint-Cyr. Alors, on s'est posé la question, pourquoi ces gens ont voulu faire du théâtre aux élèves ? Qu'est-ce qu'ils attendaient que le théâtre fît aux élèves ? La question était ça, c'est-à-dire qu'est-ce que le théâtre était supposé faire à ceux qui allaient le pratiquer ? Et pourquoi en particulier ces gens-là avaient-ils souhaité pourquoi ces gens avaient souhaité, et de façon très, très apparemment insistante, même à certains égards centrale, intégrer l'activité théâtrale, l'activité de jeu sur la scène, de jeu, parce que c'était déjà du jeu, mais enfin, l'activité de représenter, de dire, d'agir sur la scène, pourquoi avaient-ils souhaité intégrer ça dans un programme pédagogique de formation des êtres humains ? Alors, c'est là que j'ai fait un peu appel à nos souvenirs communs, même s'il y a aussi des synthèses de ces séances qui ont été rédigées pour celle avec Jean-Marie Valentin, qui est presque finie pour celle avec Georges. Qu'est-ce que nous avons retenu de cette... Qu'est-ce qu'on a retenu comme élément de réponse à cette question que nous avons posée à nos interlocuteurs, hein? Voilà, je ne sais pas. Moi, j'ai retenu des choses très simples que je dis, hein, mais il y en a peut-être d'autres qui me sont sorties de l'esprit. J'ai retenu, je crois, deux grands axes, deux grands acquis de cette séance. Mais il y en a d'autres, et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les amener ici au point de départ de notre séance d'aujourd'hui. D'une part, bon, des éléments de formation apparemment assez simples. On attend de l'acteur, du théâtre qu'il développe la mémoire, d'abord, la mémoire de celui qui joue. Mais Jean-Marie Valentin a tenu à dire que cette mémoire ne devait pas être réduite à un aspect, disons, mnésique au sens étroit, hein, c'est-à-dire pas seulement la capacité d'apprendre, par exemple d'apprendre un texte, c'était sans doute ça, mais ce qu'il a appelé plus généralement une mémoire culturelle, c'est-à-dire le fait que le fait de faire jouer des textes soit anciens, soit des textes en latin, c'était en général du théâtre en latin, le théâtre des Jésuites, presque exclusivement, soit du théâtre en latin qui agitait de grandes ressources mythologiques, légendaires, bibliques, évangéliques, je ne sais, ben que ça pouvait aider à la formation d'une mémoire culturelle. Voilà. La mémoire, la capacité de la parole publique, la capacité de prendre... Bonjour. La capacité de tenir un discours public. Ça me pose une question d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas voulu la poser pendant la séance elle-même, c'est en quoi le fait d'apprendre à jouer apprend-il l'éloquence plus autrement ou mieux que d'apprendre purement et simplement l'éloquence, c'est-à-dire les exercices de rhétorique pour eux-mêmes, hein, c'est une question, il y a tout de même quelque chose de plus à côté, hein, dire pour apprendre l'éloquence il faut que les gens jouent, c'est dire il faut qu'ils apprennent l'éloquence, mais quelque chose de plus que le simple enseignement de l'éloquence, c'était un enseignement connu, enfin à ma connaissance, hein, c'était un enseignement organisé comme tel, bon, l'enseignement de la, disons, de la rhétorique, de l'art oratoire. Bon. Donc la capacité de prendre la parole en public. D'autres termes sur lesquels nous ne sommes pas assez expliqués peut-être, qui étaient dans des textes qui nous avaient été apportés par Laura Nodex ou par certaines de ses collègues. La mémoire, le zèle et le jeu, disait un de ces textes. Le zèle, je me demandais ce que c'était que le zèle exactement. En quoi le fait d'apprendre à jouer pouvait communiquer quelque chose comme du zèle, hein, aux uns et aux autres. Bon, ça c'est les éléments que j'ai retenus de mon côté, des éléments très, très simples, il y en a d'autres, je sais même que je pointe dans ma tête bousculée, je pointe mon absence, parce que je sais qu'hier tu m'en mentionnais d'autres, que j'ai oublié. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres, à votre souvenir? Qu'est-ce que, de ce que nous avons appris de ces séances, qu'est-ce que ça disait à ces jeunes gens ou à ces jeunes filles que de faire du théâtre? Pourquoi leur faisait-on faire du théâtre? Alors, ça, c'est la question que je vous adresse, peut-être rapidement pour faire un bref point, qui permet d'accueillir nos nouveaux invités. Et d'autre part, deuxième et dernier grand axe, il m'a semblé qu'il apparaissait en cours de route quelque chose de très important, même si c'est vraiment venu de la séance, là. C'est pas venu de quelque chose que ni Jean-Marie Valentin ni Georges Forestier ne souhaitaient nous apporter initialement, mais c'est venu de nos discussions, de l'une et de l'autre. L'idée étrange que, dans la vision qu'on avait, bon, je parle des jésuites, par exemple, dans la vision qu'on avait les jésuites, c'est l'idée qui a surgi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à la fin de la séance avec Jean-Marie Valentin, pour ceux qui étaient là, qu'en quelque sorte, le projet était un projet, le projet d'intégrer le théâtre était un projet de réforme générale de la culture, un projet extrêmement large dans son ambition, mais qui valait de pair avec le fait que le théâtre devait en quelque sorte s'abolir au terme de cet enseignement. Parce que, voilà ce que je voudrais dire. C'est-à-dire le théâtre était une visée purement pédagogique, qui concernait donc une époque de la vie humaine, l'époque de, on pourrait dire, de l'adolescence. Mais que c'est à cette époque-là qu'il fallait apprendre le théâtre, et que le théâtre avait cette valeur terriblement formatrice, mais quand on devenait adulte, en un certain sens, on ne sait plus en faire, quoi. Et en particulier, certainement pas en faire sous la forme de ce que Valentin a appelé l'activité stipendiée, l'activité séparée, l'activité donc rémunérée, professionnelle, si on veut, des gens qui deviendraient acteurs de métier. Alors, en un certain sens, on fait faire du théâtre à tout le monde pour qu'il n'y ait plus de théâtre séparé. Hein, pour plus de théâtre... Bon, ça, c'est évidemment, pour toutes sortes de raisons que certains ici peut-être connaissent ou entrevoient, c'est une problématique qui me touche beaucoup parce que ça touche à quelque chose de l'existence même de la représentation comme séparée qui m'importe énormément. Bon, mais disons, voilà, c'est une question que je laisse. Il semblait comme ça qu'on faisait faire du théâtre aux gens et qu'il fallait qu'ils en fassent beaucoup, pour au fond acquérir quelque chose qui, au terme d'un développement personnel, de formation, de bildung, enfin je sais pas, au sens formation humaine, serait intégré à leur capacité, et donc à ce moment-là disparaîtrait comme activité théâtrale séparée. Voilà, c'est ce que moi personnellement... Alors là on a vu le paradoxe avec Georges Forestier de l'épisode particulier dont nous avons... commenter l'histoire avec lui, c'était très passionnant parce que, en fait, on a vu que dans l'épisode racinien, il y avait cette bizarrerie qui était que Racine qui avait abandonné le théâtre depuis 13 ans ou 14 ans, enfin qui avait cessé de faire du théâtre depuis longtemps, avait répondu à la demande de Madame de Maintenon, qui n'était pas une demande de théâtre, qui était une demande d'une espèce de poème, dialogué, chanté, qui permettait d'écrire un texte pour faire chanter, jouer ces jeunes filles. Donc il avait écrit une œuvre qui ne correspondait pas au canon du théâtre, de son point de vue, qui n'était en aucun cas, Forestier y assiste beaucoup, un retour au théâtre de la part d'un homme qu'il avait abandonné, qui ne consistait pas à se remettre à faire du théâtre, c'était autre chose. Le paradoxe étant que cette œuvre, Esther, qui a été au départ vraiment purement une œuvre pédagogique, est devenue un succès mondain, un événement mondain énorme, que c'est devenu donc apparemment un véritable spectacle, y compris un spectacle de la cour et de la société, que ça, pour le coup, c'est devenu un événement théâtral au sens plein du terme. Pendant ce temps-là, Racine a écrit une autre pièce, Athalie, qui elle était destinée à être une véritable grande production théâtrale, du coup, mais le retour de Balancier a fait que l'événement énorme qui était l'événement mondain, théâtral, social, de cours, politique à certains égards, qui est devenu Esther, a créé un retour de bâton, que autour dans l'entourage du roi, on s'est beaucoup inquiété de cette nouvelle faveur donnée au théâtre, pour le coup, au théâtre en tant que tel, que ça a inquiété le roi et son entourage, que donc on a décidé d'arrêter, qu'il a fallu cesser tous ces événements mondains, que du coup on a décidé de ne plus représenter les choses comme c'était, que du coup la pièce Athalie, qui elle avait été écrite pour ça, a été jouée dans des conditions strictement pédagogiques. Vous voyez, le mouvement de Balancier est rigolo du point de vue de l'histoire, c'est-à-dire la pièce qui avait été écrite comme un truc purement pédagogique est devenue un énorme événement de théâtre spectaculaire, et la pièce qui avait été écrite pour faire un grand événement de théâtre a été représentée dans des conditions strictement et en un certain sens étroitement pédagogiques. Alors ça, c'est évidemment une illustration décalée, bien sûr, de ce problème d'un théâtre qui serait fait pour s'abolir, mais on se demande si par moment le théâtre, justement, ne nourrit pas sa propre vie au point qu'il résiste à cette abolition. Quoi. Le théâtre qui serait censé être purement pédagogique résiste à n'être que ça et tend toujours à devenir fait de société, fait de spectacle. Voilà. Ce sont les éléments que je voulais rappeler sur nos séances préalables. Sans être plus long, est-ce que vous avez à l'esprit ou est-ce que vous souhaitez, d'une façon ou d'une autre, en particulier tous ceux qui étaient là, ajouter quelque chose sur ce que nous avons appris dans ces séances ou des éléments que nous avons pu retenir? Laura, Sophie, je m'excuse de vous interpeller directement, mais ça vaut aussi pour tous ceux qui étaient là aux séances précédentes. Est-ce que vous avez... Oui?
Alors j'ai une question.
Oui,
Youssef. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un acteur? Est-ce que vous avez commencé à parler de l'acteur avant de commencer à étudier l'effet du jeu sur l'acteur? Qu'est-ce que c'est un acteur? Parce que dans les trois, vous avez parlé de l'effet à propos de la pédagogie. Vous avez parlé de la mémoire culturelle, zèle et éloquence. Mais qu'est-ce que c'est le fait de jouer? Est-ce que le fait de jouer, ce n'est pas pour un acteur, c'est devenir quelqu'un d'autre? Et à partir du moment où un acteur devient quelqu'un d'autre, peut-être dans la pédagogie, c'était le fait de leur faire éprouver des manières différentes d'existence et des sentiments ou des pensées différentes, des manières différentes d'être. C'est ça, un acteur devient quelqu'un d'autre. Donc je ne sais pas si auparavant vous avez parlé de l'acteur, parce que qu'est-ce que c'est un acteur? C'est supposé, comme tout le monde peut-être sait ce que c'est qu'un acteur avant d'arriver au séminaire. Sinon, bon, puisqu'il s'agit de l'effet du jeu, ou fait l'effet du théâtre sur l'acteur, mais qui est l'acteur? Qu'est-ce que c'est être un acteur? Voilà.
Bien sûr, j'ai quelqu'un
temps
de
j'en ai beaucoup d'éléments là-dessus, mais je ne vais pas, en tout cas je peux vous dire que ce n'était pas une question en effet qu'on s'est posée à titre préalable, et que s'il y avait quelqu'un qui savait ce que c'était qu'un acteur en entrant, on espère bien qu'il ne le saura plus après un certain nombre de séances, c'est-à-dire on espère défaire ce savoir, parce que c'est une des questions les plus compliquées qui soient. Mais dites si vous avez des éléments de réponse à cette question. Est-ce que vous souhaitez Oui, Laura.
Il me semble qu'on en a un tout petit peu parlé autour de la question des passions. Parce qu'en fait, en croisant les deux séances, la séance en fait, de Forestier éclairait la séance de Valentin sur la question du caractère des passions. C'est-à-dire que l'acteur... Parce que le problème pédagogique qui se pose, hein, c'est qu'en gros, vous pouvez faire jouer des passions honnêtes et admirables à des jeunes gens. Le problème, c'est quand vous leur faites jouer les méchants. Donc, la question... En fait, se posait pas tant dans la question de devenir quelqu'un. Enfin, c'est ça qui est, moi, qui m'a passionnée dans la science du forestier. On devenait pas tant quelqu'un qu'on était en train de se soumettre potentiellement à des passions, donc dans une situation périlleuse. Et je me souviens que Valentin a expliqué qu'en fait, bon, ça touche aussi à la question des sujets représentés, bien entendu. Les sujets des jésuites étaient souvent des histoires assez édifiantes, bon, je schématise, mais avec des bons et des méchants. Que les bons, il n'y avait pas de problème à les jouer, bien au contraire. Mais que les méchants étaient encadrés par un dispositif, justement, qui visait... Alors, ce qui était bizarre, et ça, c'était pas très net, qui visait, pour le public en tout cas, à bien toujours dire « Attention, c'est un méchant », mais qu'avec des écriteaux, des bandeaux sur le front, des... ou le vil, la vile créature qu'il ne faut pas du tout... à laquelle il ne faut pas, justement, pour le public, on va dire, s'identifier, disons le mot. Mais est-ce qu'il en parlait aussi pour l'acteur lui-même qui, du coup, devait constamment tenir à distance les passions mauvaises ? C'était pas très net. Ben voilà ce qu'on a dit, en fait, ce qu'on a évoqué, parce qu'il y avait évidemment une question tout à fait particulière d'appréhension de l'acteur au XVIIe siècle. Quoi. On n'en a effectivement pas parlé directement.
Moi, je n'étais pas là la dernière fois, mais je travaillais un peu sur Attali. Et la question pour moi, peut-être que vous en avez parlé, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que d'abord, c'est une pièce religieuse, mais il y a aussi un contre-discours... qui remet en question la capacité d'avoir une mémoire culturelle religieuse. C'est l'Ancien Testament qui est le texte de base. Et il y a, à mon avis, dans ces textes, un certain... comment dire, c'est une certaine affirmation de l'histoire dans un sens non pas religieux, qui n'est pas du tout religieux. Et là... C'est l'exposition du roi en tant que un maître qui est dans le contexte de Racine à ce moment-là, qui est un contexte où il y a tout un enjeu entre l'Église gallicaine et le pape. C'est le roi qui est affirmé à la fin. Et c'est vraiment un moment où c'est clair et les références à Bossuet dans la préface de Racine... rend ça très, très, très clair qu'il y a un discours un peu laïque. Enfin, c'est pas laïque, mais c'est pas du tout une affirmation nette et simple de l'Église catholique. Et donc, je sais pas si vous en avez parlé, mais ça revient à la question de qu'est-ce que les institutions cherchent dans le théâtre en tant que mémoire culturelle, n'est-ce pas ?
En ce qui concerne la question que pose Youssef, bon, je dis juste quand même un mot sur la façon dont moi, personnellement, je me la pose, mais ce n'est que ma façon personnelle, ce n'est pas un acquis du séminaire là comme tel. C'est que, bon, moi, je considère que l'acteur, c'est une formation historique, sociale, que ça, c'est loin de. Le mot que nous, c'est, ne désigne pas du tout la même chose selon qu'on parle d'un porteur de masque dans l'Antiquité ou selon qu'on parle de. Comment il dit ? Yul Brynner et. Henri Fonda, dans les exemples qu'il donne là, Yul Brynner, ou bien Catherine Hepburn et je ne sais, et Bette Davis, voilà. Donc, Catherine Hepburn et Bette Davis, c'est une chose. Le porteur de masque dont nous ignorons le nom, sauf quand c'était l'auteur de la pièce lui-même, dont nous irons le nom, c'est, bon, il y a toute une chose qui est une, il y a une, la constitution historique de quelque chose que nous appelons, nous, aujourd'hui, l'acteur. Alors, peut-être que dont on s'occupe aussi ici, c'est d'un moment qui est peut-être un moment d'articulation très important dans ce processus de constitution historique. Pourquoi ? Parce que justement, il me semble, mais ça je ne suis pas sûr, hein, il me semble que pendant longtemps, ce qu'on demandait à celui qui était venu, au porte-voix qui était là, hein, à celui qui était là pour dire, pour proférer devant une assemblée un texte, et c'est très différent dans l'Antiquité, ce que ça peut être à certaines époques à Rome, ce que ça peut être à certaines époques du Moyen-Âge, etc., c'est pas de devenir quoi que ce soit. Hein, c'est-à-dire que c'est de proférer, de porter, de soutenir l'énoncé d'un texte. C'est simplement à partir d'un certain moment, et il est probable que ça a à voir avec ce dont on s'occupe là, c'est ça que vous avez raison de poser la question comme ça,
il est probable que ça se joue entre le XVIIe siècle des Jésuites et le XVIIIe siècle de Diderot, où la question de devenir quelqu'un devient si décisive. Et d'ailleurs, dans les textes que nous allons voir, dans l'histoire personnelle de Diderot, on va passer de textes, ce qu'on va voir plutôt aujourd'hui, où cette question de devenir quelqu'un est essentielle, vous avez absolument raison, à des textes, je vous proposerai qu'on regarde la prochaine fois, où le devenir quelqu'un est absolument banni. Il ne faut surtout pas le devenir. Hein, c'est ce que dit, si je le suis, je ne le joue plus. Si je le joue, c'est que je ne le suis pas. Donc il ne faut surtout pas ni l'être, ni entreprendre de le devenir. Le jeu, c'est le non-être. Et donc, en un certain sens, c'est ce qui s'installe dans l'élément de ne pas être ce qu'on montre. Hein. Donc il y a là une articulation décisive qui désigne peut-être deux voies dans lesquelles la pratique de l'acteur va se développer. Une voie devenir quelqu'un, je ne sais pas quoi, c'est Stanislavski Brecht, si vous voulez, pour dire les choses de façon très, très caricaturale, hein, dans des références d'aujourd'hui. La voie du devenir et la voie du montrer. Hein, montrer en devenant et montrer sans devenir. Voilà. Donc c'est ce point d'aiguillage où nous nous trouvons là et qui est... alors on en a discuté en effet sur la... Bon, Laura vient de le dire, je ne vais pas le répéter. Bon. Donc voilà, c'est le point que je voulais... pour dire simplement comment dans notre problématique la question peut-être se poser. Oui, Bernard.
Sur ce que tu viens de dire, Denis, quand tu rappelles tout à fait au début...
Pour continuer sur la question du comédien, et la question que posait Youssef, quand tu rappelais tout à fait au début ce qui s'est passé dans les séances précédentes, bon, et surtout d'abord ce qu'est la question de ce séminaire, c'est-à-dire, qu'est-ce que le théâtre fait à celui qui le joue, et non pas qu'est-ce que le comédien fait au théâtre, d'un renversement, moi évidemment je me dis c'est une question de thérapeutique. Je ne dis pas que c'est ce que dit le séminaire et que c'est ce que montre le séminaire, mais moi je l'entends immédiatement comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce que le théâtre fait à celui qui le joue? Il le soigne. Bon, pour moi c'est une certitude. Et la faculté de jouer, ce qu'on a appelé ce séminaire comme ça, la faculté de jouer, c'est un soin, c'est une façon de se soigner. Je crois que c'est une façon de se soigner. Évidemment, je pense à Winnicott et à tout ça aussi là, parce que peut-être qu'un jour, alors je sais que ça peut être très rapide et très, très facile de faire fonctionner cela, mais peut-être qu'un jour, ça vaudra le coup quand même d'aller faire un tour par là. Parce que le transitionnel, enfin, si la scène de théâtre n'est pas un espace transitionnel, je me demande ce qu'elle est. La question que nous nous posons dans le séminaire par ailleurs, sachant que le séminaire, il existe aussi en vue d'un colloque, enfin d'une série de colloques d'ailleurs, ce que j'appelle la base continue de l'Institut de Recherche et Innovation, qui tous les ans viendra interroger qu'en est-il de la faculté, de l'histoire de la faculté de juger. Et donc, qui passe aussi par la question de la critique, sachant que tout ne se réduit pas, enfin, jouer, juger, critiquer, c'est pas la même chose à chaque fois. Bon. Moi je dis, la critique est une dimension de la thérapeutique, et une dimension fondamentale de cette thérapeutique. Je dis tout cela pour revenir sur la question de Youssef et ce que tu viens de dire. Il me semble évident que les modalités de l'action, pour ne pas dire l'acteur ou du comédien, parce que pour moi acteur c'est toujours côté cinéma, j'emploie jamais le mot acteur pour le théâtre, mais les modalités de ces actions, disons, sont des modalités thérapeutiques pour moi. Ce sont des modes thérapeutiques qui correspondent à des histoires, à une histoire de la thérapeutique. Et par exemple, ce que disait Jean-Marie Valentin autrefois, ce que vous rappeliez là, sur le bon, le méchant, on est possédé par des processus. Sur la scène montent des forces qui sont incarnées par des... Alors, dans des modèles pédagogiques mis au point par les jésuites, etc., etc., ou autrement. Bon. Et c'est ce que tu disais, je crois, Denis, en annonçant ce qui va se passer à la fois. Je ne sais pas s'il passera par le paradoxe sur le comédien, etc. Mais avec le paradoxe sur le comédien, effectivement, il y a quelque chose qui va devenir critique. Parce que pour moi, le comédien diderotien est un comédien critique, nécessairement. Il ne peut pas être autrement que critique, parce qu'il faut qu'il ne soit pas ce qu'il est. Et pour pouvoir être ce qu'on n'est pas, et ne pas être ce que l'on est, il faut être dans la critique. Donc dans la skepsis, dans la mise en suspens, etc. Et c'est une autre thérapeutique pour moi. Je livre ces observations pour proposer que cette histoire finalement de comment on est habité par la culture, là, au sens où on en parle. Parce qu'effectivement, ce que Valentin disait était très important par rapport à ça. La mémoire, certes, mais pas la mémoire comme faculté psychologique, la mémoire au sens de Vernon, c'est-à-dire la psychologie sociale, quoi. Ça s'inscrit dans un modèle thérapeutique, et chaque organisation de la scène, avec toute sa machinerie, etc., pour moi, c'est un dispositif, c'est une salle, c'est une table de dissection, comme dirait l'autre, quoi.
Bon, alors, j'ai tellement peur d'oublier qu'avant de passer à... Je pense qu'on va passer à Diderot, là, si vous voulez bien. Avant de passer à Diderot, je voudrais dire que dans le texte qui a été photocopié ici, il y a tout de même une chose qui m'a... ça, c'est ma transition. Hein, le texte de d'Eisenstein, Diderot a parlé de cinéma. Alors, moi, ça m'a laissé pantois par rapport à notre séminaire, vraiment. J'avais oublié, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur Eisenstein il y a quelques années, mais dans ce texte, on trouve... je suis obligé de prendre mes lunettes. On trouve quelque chose qui d'ailleurs, si on pouvait le retrouver, je ne sais pas comment on peut faire, mais on trouve à la note 7. La note 7 correspond à un appel de notes qui se trouve à la page. Excusez-moi, je ne sais plus.
259.
Combien ?
259.
Oui, oui, c'est ça. Mais la note appelée, la note est appelée à la page, je ne sais plus où dans le texte. La note 7. Combien ? 80. 80, la note 7. C'est où ? Voilà. Alors, je veux simplement dire un truc. Bon, c'est très compliqué dans la problématique Eisensteinienne de l'acteur, dont nous parlerons peut-être un peu tout à l'heure. Hein. C'est très compliqué. Mais je veux simplement pointer ceci. Que, au quatrième paragraphe, il est dit dans la page 80, il est dommage que le système, etc., etc., il est intéressant, il s'agit de Stanislavski, il est intéressant de rappeler que les mystiques, nous parlons de Stanislavski. Eisenstein, en 1943, parle à Alma Ata, parle de Stanislavski. Et il dit ceci, il est intéressant de rappeler que les mystiques, qui utilisaient la même technique, ont laissé à ce propos des notes bien plus techniquement rationalisées, donc que Stanislavski, Manresa, le recueil d'exercices spirituels d'Ignace de Loyola, par exemple. J'expose certains points de cette curieuse catéchèse d'exercice psychologique dans un appendice à cet article. Malheureusement, l'appendice, nous ne l'avons pas ici, mais à la note 7, nous ne l'avons pas ici, c'est pas notre faute, il n'est pas dans l'édition, hein. Mais à la note 7, on apprend ceci, que cet appendice consacré à Stanislavski et Loyola, c'est quand même fou, figure dans Montage 37, œuvre choisie tome 3, mais ça, à ma connaissance, œuvre choisie tome 3, c'est en russe. C'est en russe, bien sûr. On n'a pas ça, nous, en français. Et je ne sache pas, de mémoire en tout cas, que ce texte, on l'a quelque part.
Ils indiquent une traduction française dans la non-indifférente.
Ah, dans la non-indifférente nature, ça je l'ai. La non-indifférente nature.
355.
Ah ben voilà, j'avais pas vu ça. C'est dans le numéro d'Hydro.
Ouais.
Ah ben alors, il faut retrouver ce texte. Moi, je ne l'ai pas vu. Il faut qu'on le retrouve avec avant. C'est facile. La non-indifférente nature, ça avait été publié en 1918, hein, dans les années 70, à la grande époque de la collection. Il faut absolument qu'on se procure ça, parce qu'un texte sur Stanislavski et Loyola, c'est-à-dire, enfin, on est vraiment... Comme quoi, il n'a pas fallu attendre... c'est Eisenstein, quand même. C'est Alma Ata, en 1943, hein, qui établit ce rapport entre les exercices spirituels et le système... je ne sais même pas si Valentin le sait, ça. Il faudra qu'on le lui dise. Parce que c'est... Bon, il faut qu'on prenne ce texte, hein, donc... Alors, la référence exacte, nous ne l'avons pas ici sous les yeux, si non, Sophie...
355.
N.I.N., c'est non-indifférente nature. Ah ben oui, c'est ça.
Je pense qu'on a deux volumes. Oui. C'est le premier ou le deuxième, ils disent, non ?
Le premier volume.
Non-indifférente nature. Hein. Ah oui, N.I.N., c'est non-indifférente nature. Hein. Alors voilà, donc, hein, Julien, il faut absolument qu'on amène ça pour notre prochaine discussion, parce que c'est trop bien, quoi. C'est trop bien, voilà. Donc il faut qu'on regarde, je ne sais même pas s'il y a 10 lignes ou s'il y a 4 pages, j'ai aucune idée, je ne me souviens plus de ce texte. Ah oui ?
Si c'est dans la non-indifférente nature.
Ah ouais, alors ça c'est formidable. Bon voilà. Donc ça c'est juste un point de ces petits plaisirs de la rencontre qu'on a de temps en temps. Bon voilà. Alors maintenant on en vient, si vous voulez, à Diderot. On va dire quelques mots avant de... D'abord pour lui-même, puis alors, comment Diderot intervient-il, comment cette affaire du Fils naturel, et surtout l'affaire du prologue et de l'épilogue du Fils naturel intervient-elle dans la question que nous nous posons ici? Alors, c'est un texte extraordinairement riche, extraordinairement complexe, surabondamment commenté, dont on ne va évidemment pas pouvoir ici tirer les ressources infinies. Hein. Il y a quelqu'un qui avait très envie d'être des nôtres pour avoir travaillé sur cette affaire, c'est Laurence Marie, mais qui est absolument empêché d'être là aujourd'hui. Bon. Alors, Diderot écrit une pièce datée de 1757, je ne sais pas exactement si elle est... Le sixième volume de l'encyclopédie venait de paraître, donc c'est très en 56 que l'événement est supposé avoir eu lieu. Bon, il écrit cette pièce, datée de 1757, qui s'appelle Le Fils naturel. C'est une pièce de théâtre, hein, une pièce de théâtre, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire, une pièce de théâtre qui est partie des œuvres, voilà, avec l'originalité et aussi le caractère daté de cette époque, voilà. C'est une pièce de théâtre. Alors, il a l'idée, un peu plus tard, il s'en explique dans le discours sur la poésie dramatique, au chapitre 10, il a l'idée, je vais vous retrouver tout de suite la référence, voilà, parce que c'est une adaptation, si je ne dis plus, si je ne dis pas de bêtises, hein, je ne sais plus, c'est une adaptation de Goldoni, c'est bien ça, au départ, Le Fils naturel, ça vient de Goldoni, l'ami vrai, l'ami sincère, oui, l'ami sincère, hein? Oui, mais c'est quand même, il dit quand même qu'il a pris là la matière de son intrigue. Et dans le discours de la poésie dramatique, il dit, quoi qu'il en soit, au chapitre 10, de cette portion d'une farce en trois actes, ça il s'agit de Goldoni, j'en fis la comédie du Fils naturel en cinq, et mon dessein n'étant pas de donner cet ouvrage au théâtre, chose qu'on peut discuter, je pense, mais enfin, bon, j'y joignis quelques idées que j'avais sur la poétique, la musique, la déclamation et la pantomime, et je formais du tout une espèce de roman que j'intitulais Le Fils naturel ou Les épreuves de la vertu, avec l'histoire véritable de la pièce. Alors qu'est-ce que c'est que cette espèce de roman? Cette espèce de roman, c'est un ensemble de quatre textes, la pièce, Le Fils naturel, à quoi il joint un prologue et un épilogue, dont vous avez le texte ici, en partie ou intégralement, en partie, intégralement, intégralement, donc le prologue et l'épilogue que vous avez ici, il met ça avant et après, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, on ne va pas s'occuper du Fils naturel directement aujourd'hui, mais le prologue et l'épilogue, et la suite de l'épilogue, c'est les entretiens sur le Fils naturel, qui sont un dialogue destiné à débattre des affaires générales du théâtre, pour le dire de façon rapide. Alors pourquoi cet prologue et cet épilogue, je souhaitais que nous les lisions ensemble, et pas seulement parce qu'Eisenstein les a justement lus et s'y est intéressé, mais en eux-mêmes ils disent quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce prologue? Donc c'est une fiction, une espèce de roman. Hein. C'est une fiction. Quelle est cette fiction? Diderot imagine que la pièce Le Fils naturel a été écrite par un de ses personnages, hein, c'est-à-dire un des personnages de la pièce, qui s'appelle Dorval, qui est un des personnages principaux, à vrai dire, de la pièce, et l'auteur. Il a été écrit. Cette pièce aurait été écrite pourquoi? Pour être représentée tous les ans par les gens mêmes qui ont vécu l'histoire. C'est ce qu'il raconte dans ce prologue. Hein. C'est-à-dire, il s'agit de dire que tous les ans, on va jouer, on va se rejouer cet événement que nous avons vécu, nous-mêmes. Chacun dans son propre rôle. Et le prologue explique que cette représentation a lieu. D'ailleurs, c'est la première de ces représentations qui a lieu. Hein, c'est ça. Hein. C'est pour la première fois bientôt. Donc cette pièce qui est destinée à être jouée par les personnages eux-mêmes. Les personnages sont les acteurs et les acteurs seront les personnages. C'est ça le point qui est, pour ce dont nous parlons, évidemment, le point décisif. Les acteurs jouent eux-mêmes, quoi. Une petite différence près qu'on va voir. Donc, il a écrit cette pièce, elle va être jouée dans les lieux mêmes, avec une modification, dans les lieux mêmes, une modification à laquelle Eisenstein va être terriblement attentif, dans les lieux mêmes où les événements se sont produits, avec les costumes, que portaient les gens lorsque les événements se sont produits, afin de raconter un événement tout à fait mémorable, enfin une série d'événements tout à fait mémorables qui se sont produits entre eux. Donc, c'est une espèce de, je ne sais pas comment dire, une espèce de protocole, de scénographie de ce qui a eu lieu, hein, qui est supposé repris en charge par les personnages eux-mêmes et à ce titre joué. Et c'est ça qui n'est pas du tout visible dans la pièce quand on lit la pièce. Probablement que quand il a écrit la pièce, il n'a pas du tout pensé à ça, hein, je me semble. C'est cette espèce de fable dans laquelle il intègre la pièce qui nous occupe ici. Parce, pourquoi ? Parce que c'est la fable de deux choses. D'une part, d'un événement dramatique où la différence entre comédien et personnage serait en quelque sorte annulée. Hein, le comédien et le personnage, là. La différence mimétique, la différence représentative serait en quelque sorte abolie. Hein, ça serait, en tout cas, c'est le projet. Évidemment, ce projet va échouer, me semble-t-il. C'est ce que le génie de Diderot est d'avoir mis en place. Et d'autre part, c'est un théâtre sans spectateur, au départ, dans l'idée. Hein. C'est-à-dire, c'est un théâtre sans spectateur, puisque c'est supposé être joué dans le salon des comédiens, enfin des personnages comédiens, des comédiens personnages pour eux-mêmes. Voilà. À part que, sur ce point.
À part, finalement, on demande d'écrire.
À qui
Diderot. Dans l'histoire, on lui demande finalement d'écrire l'histoire et finalement il serait un étranger à ça, au personnage.
Ah non, pas Diderot, non, celui qui écrit l'histoire c'est Dorval. Dorval c'est le personnage lui-même. Mais en revanche, là où tu as raison, c'est que ce qui se passe, c'est qu'évidemment dès le prologue, ce projet du théâtre sans spectateur échoue parce qu'il y en a bien un. Puisqu'en fait, et il y en a bien un qui va nous raconter non pas la pièce, c'est pas l'auteur de la pièce, censément c'est Dorval dans la fiction. Mais en revanche, qui est bien l'auteur de ce que nous avons sous les yeux, là, du récit qui nous rapporte ces événements, c'est-à-dire le jeu du « je voulus connaître cet homme, je le connais », etc. C'est quelqu'un qui peut s'appeler, on peut dire, Diderot, hein, et qui en effet, il y a donc bien un spectateur qui est comme, merveilleusement d'ailleurs, qui est rentré par la fenêtre, on ne saurait mieux le dire, hein, c'est-à-dire qu'il est rentré par la fenêtre et il s'est caché derrière un rideau. Ce théâtre sans spectateur nous est rapporté par un spectateur, quoi,
caché.
qui est caché, qui est planqué dans un coin. Il y a d'ailleurs, puisque Joris Lacoste qui était là avec nous aujourd'hui, puisque Joris, tu dis ce spectateur caché, je me souviens, j'avoue que ma mémoire avait fait défaut, mais je suis pratiquement certain de ce que j'avance, que je croyais que c'était dans ce texte, Diderot a parlé de cinéma, mais ce n'est pas dans ce texte, et c'est dans un texte d'Eisenstein, de la même séquence, je pense que c'est dans le même volume, mais je ne l'ai pas sous les yeux, où Diderot dit que ce spectateur caché derrière le rideau, c'est la caméra, ce sera la caméra. Il le laisse entendre ici, il le laisse entendre dans ce texte-là, mais il le dit explicitement dans un autre texte. Je suis sûr d'avoir lu ça sous la plume d'Eisenstein. Je ne pense pas pouvoir me tromper. Donc, il y a un moment où il dit que ça, c'est une figure avant la lettre. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une figure potentielle, mais je suis sûr que c'est contenu de façon explicite, c'est formulé de façon absolument explicite ailleurs, mais probablement au même moment, à la même époque. Je me demande si c'est pas dans les mémoires, je ne sais pas, peut-être dans les mémoires même. Hein. Voilà. Donc, première étape, étape du prologue, suppression de la différence représentative, suppression du spectateur, mais immédiatement, en quelque sorte, démenti par le spectateur qui est entré par la fenêtre. Ça, c'est la première.
Il y a une autre chose qu'on pourrait ajouter, c'est que le spectateur de Diderot qui rentre, il est aussi... c'est une place accordée par Dorval.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Parce que quand même, il y a un dit, ça arrive au moment, je te dirai si tu peux ou pas.
Oui, tu as absolument raison. Absolument. C'est depuis la scène que la place du spectateur est sollicitée.
Il rentre par la fenêtre.
Il rentre par la fenêtre, voilà, c'est ça.
Non, il y a un autre détail aussi qui me semble important, c'est que évidemment, il n'y a pas la différence entre les personnages et les comédiens est abolie, puisque à l'exception de l'un, ils jouent leur propre rôle. Mais dans une certaine mesure, ils sont aussi auteurs de la pièce,
puisque
Dorval écrit la pièce, mais il l'a fait relire et corriger par tous les personnages qui chacun réécrivent une partie de leur dialogue dans un souci soit de vérité pour certains, soit de pour enjoliver ou pour rendre leur comportement plus pour l'atténuer ou accentuer certains caractères.
Oui, exactement. Ouais. Alors ce qui est fabuleux, c'est que tout ça est une fiction. C'est-à-dire que c'est tout ce dispositif extraordinaire et idéal, c'est quand même un dispositif absolument... C'est du flan, quoi. C'est que Diderot qui l'a... Oui, Youssef.
C'est un théâtre sans pièce, puisque c'est la relation des événements. C'est un théâtre sans acteur. Mais il n'y a pas de théâtre s'il n'y a pas au moins un spectateur. c'est la situation minimale du théâtre. Il faut un spectateur. Si c'est pas, sinon les enfants qui jouent à être autre chose, qui jouent pour eux-mêmes, comme dans les jeux solitaires, il n'y a pas de théâtre. C'est le minimum d'existence théâtrale, c'est l'existence d'un spectateur au moins.
Ça me fait penser à Pirandello, aussi personnage en quête d'auteur terriblement. Ceci près que dans Pirandello, il y a les acteurs qui viennent se faire habiter par les personnages qui désirent exister en trouvant corps.
Il y a, je peux dire tout de suite que ce spectateur, comme ça, minimal, réduit à rien, mais ce rien est énorme, puisque ce rien est en vérité l'auteur de ce texte, mais ce rien est en vérité l'auteur du texte, ce rien est en plus l'auteur de la fiction, etc. Ce rien du tout, vers quoi tout ça me nuise, comme ça, est en fait énorme, c'est, à mes yeux, mais il faudra qu'on leur pose la question, c'est la position de Grotowski dans les exercices sans spectateur. Mais quand Grotowski fait ses exercices en spectateur, il y a Grotowski qui est là, c'est la position d'Emmanuel. C'est, alors là, il faudra poser la question dans le contexte brechtien. Je ne sais pas, dans les pièces didactiques, qui sont des pièces sans spectateur, puisqu'en principe ce sont des exercices destinés à être... C'est la position, je ne sais pas, peut-être ou bien de l'auteur Brecht qui a écrit la pièce, ou bien du metteur en scène Brecht qui dirige l'exercice. Il y a toujours quand même un point... Il y a ce paradoxe que le désir est d'amoindrir au maximum cette position spectatrice, mais qu'en même temps, dans cet amoindrissement, elle reprend une position, un éclat énorme. Bon, et pour en finir avec ce dispositif, après nous allons pouvoir en parler tous ensemble, je viens maintenant à l'épilogue qui suit la pièce, et où on voit la suite de cette fable. Cette fable, c'est quoi? C'est que la représentation n'a pas pu avoir lieu jusqu'au bout. Alors tout de suite, on dit, j'ai promis de dire pourquoi je n'entendis pas la dernière scène, et le voici. La représentation n'a pas pu avoir lieu jusqu'au bout. Pourquoi? Et ça, c'est quand même extraordinaire, pourquoi? Elle n'a pas pu avoir lieu jusqu'au bout, parce qu'il manquait un des personnages. Pourquoi manquait-il? Parce qu'il est mort. Et sur cette mort, on aurait beaucoup à dire. Pourquoi est-il mort? Il manque parce que le temps passe. Et que donc la différence mimétique, il y a un point sur lequel elle n'a pas pu être abolie, c'est qu'entre le personnage joué et le comédien qu'il joue, il y a le temps, il y a du temps. Et je crois que la mort d'un des personnages montre ça, simplement, le temps est passé. Entre l'événement que vous voulez jouer et le fait que vous le jouiez, il y a tout de même cet écart, qui est l'écart du temps qui passe, puisqu'il y en a un qui est mort avec ce temps. La mort dit ça, me semble-t-il. Bon, alors après, ce type-là n'est pas là. Et comme il n'est pas là, il faut un acteur. L'acteur arrive, et il est tellement ressemblant que tout le monde se met à pleurer. Donc, si vous voulez, c'est quand même extraordinaire. La pièce n'a pas lieu parce qu'il y a un acteur. C'est-à-dire, la pièce, on est obligé de s'arrêter parce qu'il y a un acteur. C'est-à-dire, la fiction de cet écrasement de la représentation sur elle-même, cette fiction implose, c'est-à-dire s'arrête de l'intérieur, non pas explose, mais implose, parce qu'il y a un acteur. Et que donc la présence de l'acteur, dont on aurait pu attendre à première vue que ça arrête la présentation, on se dit, ah ben non, c'est un acteur, ça va pas, c'est pas le vrai. C'est en un certain sens, ça s'arrête parce qu'il est trop vrai, parce qu'il est, c'est trop lui. Et le fait qu'il soit lui, alors qu'en fait il est mort, ça bouleverse tout le monde et que ça n'a pas lieu. Donc en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à cette époque, me semble-t-il, Diderot annonce, ça va être la grosse différence, je crois, avec la lecture que va en faire Eisenstein, annonce l'échec de son propre dispositif deux fois. Le dispositif sans spectateur, parce qu'il y a un spectateur qui rentre, et l'adhésion totale entre le représentant et le représenté, parce que ça s'arrête, ça n'a pas lieu, ça ne marche pas. Donc voilà. Donc c'est ce dispositif. Alors je me demande, on peut se demander, qu'est-ce que ça nous dit à nous dans notre question? Je ne sais pas, on va voir à le terme de notre discussion, qu'est-ce que ça peut nous dire ou pas dans la question que nous posons ici. En tout cas, il m'a semblé, lorsqu'on voulait parler de cet rapport à un théâtre sans spectateur, parce qu'au fond, alors là, moi je vous adresse la question, à vous lecteurs de ça, qu'est-ce que c'est supposé leur faire à ces gens? Pourquoi
Oui, parce Sophie. C'est supposé être une cérémonie commémorative, ouais. Parce qu'il faut quand même passer un tout petit peu par la pièce. La pièce, c'est l'histoire d'une famille, enfin c'est l'histoire d'un ordre qui se recompose. Parce qu'au départ, on a deux couples qui vont Dorval. Le héros, son ami Clairville, Rosalie, qui est une jeune fille aimée par Clerville et par Dorval, mais en secret, et Constance, qui est la sœur de Clerville et que Dorval finira par épouser. Presque toute la pièce, c'est l'histoire du scrupule de Dorval, qui est amoureux de la fiancée de son ami et qui ne peut se résoudre à briser cette amitié, etc. Et donc, toute l'histoire, c'est le héros qui va réussir à vaincre sa passion, qui va se sacrifier financièrement pour son ami, etc., pour arriver à l'avant-dernière scène, à une résolution de l'intrigue qui sera Dorval va épouser Constance et Clerville va épouser Rosalie comme il aurait dû le faire au départ. Donc c'est tout, il y a tout un jeu sur l'ordre et le désordre et ça va se...
Il y a un gros coup de théâtre et vous révélez que Rosalie est la sœur de...
Voilà, avec, à cette dernière scène
près. De la passion en une sorte de...
Ouais, c'est vachement beaucoup plus ambigu que ça encore parce que là, il y a... Ça, c'est l'histoire de la pièce. Ça pourrait être une pièce tout à fait classique du XVIIIe siècle, une comédie où finalement tout rentre dans l'ordre et l'ordre est validé à la fin. Sauf que là, il rajoute une scène qui est justement la scène qui n'est pas jouée, qui est la scène du retour du père. Le père qui ne joue aucun rôle, à vrai dire, dans l'action. Sauf qu'il vient à la dernière scène, alors le père de Dorval, et dont on apprend à la dernière scène que c'est aussi le père de Rosalie. Ce qui fait que ce désordre, c'était en plus un désordre incestueux. Donc là, rétrospectivement, Dorval a réussi à vaincre une passion qui n'était pas morale parce qu'il était le concurrent de son ami, mais en plus, il a réussi à vaincre l'inceste sans le savoir. Et, donc, c'est une scène finale qui est très bizarre parce qu'à la fois, elle ouvre rétrospectivement une sorte d'abîme de questionnement sur la nature de la passion et de la sensibilité. Et puis, sur la question de la voix du sang, qui est une question vraiment qui revient dans toutes les pièces de l'époque. Et en même temps, c'est une scène qui vient achever l'ordre, parce que le père arrive, il dit « Bon, toi tu es mon fils, toi tu es ma fille, donc toi tu es cousin tel et toi une telle. » Et en même temps, je bénis cet ordre, et il y a un tableau final tout à fait attendrissant, où on a tous les enfants qui baignent les mains de leur père, de leurs larmes, et tout le monde s'embrasse, etc. Donc, c'est ça qui commémore, c'est la victoire sur soi, c'est le retour de l'ordre, et avec évidemment tous les présupposés idéologiques qui vont avec. Donc,
mais ce que vous n'avez pas du tout remarqué, que je vous remercie infiniment de me faire remarquer, c'est que c'est ça qu'ils ne peuvent pas jouer en plus. C'est cette commémoration, cette résolution qu'ils ne joueront pas.
Et c'est cette scène, elle est inutile dans l'histoire. Elle est utile symboliquement, idéologiquement, oui. Mais. On n'en a pas besoin.
Ouais.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ça qui s'apprête.
Oui, c'est ça qui s'apprête. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, absolument, c'est... Alors donc, en principe, ce que c'est censé leur faire, c'est la commémoration, quoi, la ritualisation, la reproduction rituelle ou commémorative de ce qui a eu lieu pour être... Mais presque à l'identique, sauf le passage du temps.
Ouais. À quoi on a échappé et célébrer la société qu'ils ont réussi à fonder, parce que la famille, ici, est un microcosme.
Quelque chose qui... Alors je pense à... Je fais...
Non, c'est juste que dans le prologue, clairement que non seulement ils veulent la rejouer tous les ans, mais en plus, l'idée c'est que ça soit joué après par les enfants.
Les petits-enfants.
Il dit pas jouer justement dans le prologue.
Pardon ?
Il dit pas jouer dans le prologue. On renouvellera comme si c'était une réalité qui allait se reproduire. On dira notre réalité, on la joue pas.
C'est vraiment un risque.
C'est l'Eucharistie.
Et puis cette
négation du théâtre.
Voilà, c'est ça.
Complètement son théâtre. Il y a une chose puisqu'il s'agit d'un texte théorique au début dans le prologue, quand il dit, c'est le père dit, il ne s'agit point ici d'élever des tréteaux, mais de conserver la mémoire d'un événement qui nous touche et de le rendre comme il s'est passé. Alors si on reprend le texte de. D'Aristote, je m'excuse de faire le pédant. Donc, chez lui, donc, il fait la différence entre la poésie et l'histoire, parce que le théâtre, c'est la poésie. La poésie est plus philosophique que l'histoire, parce que l'histoire reprend ce qui s'est passé, c'est de l'ordre de la mémoire. La poésie, ce qui pourrait se passer. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Donc on sort de cette dimension autre qui est la dimension de la représentation. Comment ?
C'est un projet d'annulation de la représentation, d'annulation du théâtre, d'annulation de la poésie. C'est d'automatique sur la représentation. C'est plus philosophique que l'histoire. C'est plus philosophique que la poésie. Absolument, c'est cette volonté d'animation complète de la
théâtralité.
Je voulais simplement dire une chose. Non, pardon.
Non, l'animation de la théâtralité.
Non, ce que je pense que aussi poser la question différemment, que nuancer cette idée de spectacle sans spectateur ou d'annulation de la représentation qui me semble là un peu rapide. Dans la mesure où ce qui est dit dans le prologue, c'est qu'on la représente, il la représenterait entre eux, nous la représenterions entre nous. Et là, ce qui est présenté, c'est plus que, effectivement, il n'y aura pas de spectateurs extérieurs à la représentation, mais ils seraient tous spectateurs les uns des autres. Donc c'est l'idée qu'on passerait directement à une représentation sans spectateurs, et peut-être pas aussi, pour moi, aussi simple que ça. Parce que là, c'est plus effectivement l'idée que chaque acteur est aussi spectateur des autres acteurs, et de ce point de vue-là, chaque. Acteur serait aussi. Et puis après, dans la manière, disons, dans le, je crois que c'était dans l'entretien, quand justement ils révisent leur texte et leur rôle, etc., c'est aussi dans l'idée de paraître d'une certaine manière aux autres. Aux autres, c'est aux autres membres de la famille.
Là, on est au cœur du schmilblick, là, parce que est-ce qu'on est, ça c'est l'affaire du jugement elle-même, hein, est-ce qu'on est spectateur de ce qu'on agit, ou éventuellement de ce que quelqu'un agit sur soi, c'est-à-dire c'est essentiel, je crois, ce que tu dis là, parce que je trouve ça absolument fondamental. Et en effet, tu as raison, c'est pas un théâtre sans spectateur, c'est un théâtre sans spectateur externe, ce qui n'est pas la même chose, et avec cette espèce de fiction d'un spectateur interne à l'action elle-même, hein, qui n'est pas du tout le dispositif du paradoxe, pas du tout, parce que dans le paradoxe, le spectateur, il s'agit d'être spectateur, mais justement parce qu'on se dissocie radicalement de ce qu'on est en train de faire. Oui, Bernard.
Je voulais aller vers la chose que vous avez finalement dit, c'est un petit peu. Moi, je pensais à Bakhtine et au dialogisme depuis un moment. Et en vous écoutant, là, c'était vraiment formidable, la lecture que vous avez présentée, l'entretien. Ce que vous avez dit, si j'ai bien entendu, c'est que l'amitié est mise au service du respect de l'interdit de l'inceste. Enfin, je l'ai entendu comme ça. C'est-à-dire que l'amitié, ou quelque chose d'Orval par fidélité, finalement, amicale, il dit non, non, en aucun cas, je ne ferai une chose pareille, et sans le savoir
quoi.
Il, du coup, il respecte l'interdit de l'inceste. Donc c'est une scène surmoïque à fond. C'est le surmoi, et c'est pour ça que j'ai un Oedipe à l'envers, c'est exactement le contraire de ce qui se passe dans Oedipe. Or, Oedipe est souvent posé aussi, naïvement, enfin, faussement d'ailleurs, sur le plan de l'histoire, comme un peu l'origine du théâtre, comme la pièce qui représente, à proprement parler, quoi, la déritualisation. Le théâtre comme passage du rite à la représentation. Enfin, du rite, du rituel. Et là, il y a plutôt un parcours qui serait du théâtre à la ritualisation. C'est un retour à la ritualisation et finalement une dissolution du théâtre dans la société. C'est-à-dire où le théâtre s'anéantit. Pourquoi, effectivement, d'une certaine manière, pour que chacun joue et que finalement ce jeu entretienne. Alors, il y a commémoration qui ne peut pas. Rien ne fonctionne d'une certaine manière dans cette affaire. Donc, c'est là que la critique, c'est là que Diderot fait jouer la critique de toute façon, en tous les cas. Mais, moi, effectivement, je me disais, et ça va ensemble, la question qui se pose ici, c'est quoi du dialogique ? Évidemment, je dis cela avec mes préoccupations actuelles sur le fait que. Il ne peut y avoir de symbolisation sans surmoi, à mon avis, et il ne peut y avoir de symbolisation sans participation associative de ceux qui symbolisent, c'est-à-dire sans qu'il y ait un circuit entre tous les actants. Et là, finalement, alors là, pour le coup, si c'est pas une thérapeutique, ce dont on parle cet entretien, je veux dire, c'est rien du tout. Là, c'est une thérapeutique absolument. Évidente, une thérapeutique familiale évidemment, mais on a l'impression qu'il s'agit de poser que chacun doit rejouer finalement le rôle et dialogiquement, c'est-à-dire en passant régulièrement, j'irais dans ce sens-là, du rôle d'actant au rôle de spectateur et de juge. De juge au sens où, dans un surmoi, s'il n'y a pas de surmoi sans juge.
Alors, ce qui va nous occuper, vraiment là, je crois qu'on est vraiment au cœur, entre ce que vous venez de dire, on est vraiment au cœur de notre question telle qu'elle émerge. Mais c'est l'intérêt de la chose qu'elle n'était pas formulée comme ça au départ. Il me semble que ce qui va nous occuper, et ça sera peut-être la différence avec la deuxième séance d'Hydro, parce que je crois que c'est très, très différent de l'affaire du paradoxe. C'est, on vient à cette question que tu formules à partir du dialogisme, que Joris a formulé à partir de la question de l'acteur-spectateur. Deux acteurs jouent ensemble. Il n'y a pas, censément, on sait que c'est pas vrai, mais il n'y a pas, il est supposé pas y avoir de spectateur extérieur. Hein. Un joue, bon, il joue. On va revenir sur lui à un moment ou à un autre. L'autre, celui qui joue avec lui. Tu dis, Joris, il est au moins spectateur de ce que l'autre est en train de jouer. La question que je pose, sans y répondre, j'ai évidemment, c'est dans le fait qu'il est spectateur de l'autre acteur avec qui il joue, dans ce fait des spectateurs, est-ce qu'il cesse de jouer ou pas, lui ? Et comme tu sais, c'est une question pratique aussi sur la scène. C'est-à-dire, la question, c'est celui qui écoute. Est-ce qu'il joue, qu'il écoute, ou est-ce qu'il écoute, hein? C'est-à-dire, l'acteur, l'autre, celui qui joue avec l'autre, celui qui, voilà. Moi, je sais que nous, enfin, excusez-moi, je sais que nous, dans l'expérience à laquelle j'ai participé, nous avons pratiqué très radicalement, s'il écoute, alors il joue pas. Il arrête de jouer, il pose toutes les valises et il écoute. Dans le fait qu'il écoute, il cesse de jouer. Alors, il y a cette antinomie est quand même... on peut imaginer, peut-être qu'on peut imaginer quelqu'un qui écoute en jouant, enfin je sais pas comment dire, tu vois, qui est spectateur, auditeur, spectateur, en jouant, je sais pas, moi, pour moi, peut-être très radicalement diderotien au sens du Diderot 2, du Diderot du paradoxe, parce que moi je suis très de ce côté-là, pour moi, je sais, c'est pas possible, c'est-à-dire, où tu joues, tu écoutes, quoi, si tu écoutes, t'arrêtes de jouer, mais bon, c'est personnel, c'est pas forcément une obligation. Excuse-moi, il y a Saul qui voulait dire un truc, oui.
Excusez-moi, je m'exprime assez mal parfois en français, mais... Ouais.
Sur les Américains, hein, il y a un truc simple.
Justement, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a, dans l'interview d'Hiro, sur le théâtre, le rôle du voir, qui est, à mon avis, absolument fondamental. Et c'est justement, enfin, dans la lettre sur les muets, il dit que quand il va au théâtre, il se bouche ses oreilles pour voir. Et cela rentre dans la problématique de qu'est-ce que c'est un acteur, comment est-ce qu'il sait qu'il joue. Ce n'est pas parce qu'il parle ou bien qu'il écoute, c'est qu'il voit d'abord l'autre devant lui. Donc toute la problématique du tableau, qui est justement... la relation entre la peinture et le théâtre chez Diderot, c'est comment, quel est le moment, quelle est la constitution du regard de l'acteur, quelle est la constitution critique du regard de l'acteur, et ça ne passe pas par ce qu'il dit, ni ce qu'il écoute. Ce qu'il faut voir d'abord l'autre devant lui pour savoir que lui-même il peut jouer un rôle, c'est-à-dire il est un autre parce qu'il y a un autre devant lui.
Juste pour ajouter en fait à ce que vous avez dit, ce que j'ai dit. Vous dites, je pensais avec quelqu'un qui avait fait, il faut écouter en fait. Par exemple, cette fois, c'est juste des enregistrements en fait, de trois voix, mais c'est le même personnage. Et c'est lui qui écoute en fait les voix. Et il dit, je me rappelle en fait Pierre Chabert qui a dit. Bon, qui a mis en scène cette pièce, et Beckett a dit non, l'acteur il doit pas mimer, il doit pas dire les aucun mot en fait sur scène, mais il doit écouter. Comment ils peuvent écouter et jouer en même temps en fait.
C'est pas possible. Je me permets juste de redire, est-ce que l'acteur Beckettien joue à cet acteur là parce que voilà. Je rappelle cette formule de Beckett à André Bernol, il me faut des acteurs substance. Et je dis, est-ce que l'acteur substance, l'acteur rêvé de Beckett, et certainement lui, je suis sûr de ça, qu'il écoute absolument. Est-ce qu'il joue ? Je ne sais pas, hein, c'est une question. Joris,
non, c'est la même chose, c'est-à-dire que est-ce que l'acteur peut écouter en même temps qu'il joue, est-ce qu'il peut jouer en même temps qu'il écoute ? Pour moi, c'est une question qui n'a de sens que si on sait ce que ça veut dire jouer. C'est-à-dire que tant qu'on. Pour l'instant, jouer, enfin, je ne sais pas, je reste. Mais
écouter, ça peut être une modalité du jeu, tout à fait. Si on considère que jouer, c'est au sens de faire des choses sous un regard, sous le regard de spectateur, si c'est simplement ça, jouer, c'est une définition très, disons, degré zéro du jeu, c'est agir sous le regard de quelqu'un. Si c'est ça, écouter, c'est une action parmi d'autres, au même titre que parler. Si jouer, c'est devenir quelqu'un d'autre, si c'est je sais pas, incarner un personnage, si ce genre de définition-là, la question se pose différemment, mais tant qu'on ne sait pas ou qu'on ne définit pas un petit peu ce que ça veut dire jouer, je pense qu'on ne peut pas répondre vraiment à la question.
Ça veut dire écouter aussi, parce que écouter, ça veut dire comprendre. Enfin, bien et sûr, donc ça a une incidence sur la réponse de l'autre. Or, l'acteur en face dira toujours sa même réplique. Donc est-ce qu'il écoute ? Est-ce qu'on écoute vraiment quand on est dans le jeu ?
Moi, je poserais la question, excusez-moi, je poserais la question juste, plutôt que de dire écouter jouer, peut-être sur ce paradigme-là, je dirais plutôt travailler la proportion, ou en tout cas l'échange, ou la circulation, ou la proportion entre deux types d'activités qui seraient, moi je dirais, je définirais davantage, que je formulerais plutôt sous la forme effectuer des actions, que ces actions soient mimétiques ou pas, et interpréter, au sens de interpréter, ou juger comme vous le dites. C'est-à-dire au sens de former des interprétations qui sont des interprétations, tout type d'interprétation. Et que c'est ce rapport-là, à mon avis, qui est problématique, dans la mesure où, je pense qu'en effet, plus on est dans l'effectuation, moins on est capable d'interpréter, et inversement, plus on interprète, moins on est capable d'agir. Et que, quasiment, d'un point de vue quasiment spinoziste, je dirais, c'est pour moi des proportions qui sont strictement inverses. C'est-à-dire qu'il y aurait une capacité, disons, globale à l'action au sens large, ou à la une puissance d'agir, comme dirait Spinoza. La puissance d'agir, elle est partagée, disons, en capacité d'effectuer et capacité d'interpréter. Mais effectivement, quand on est pris par l'interprétation, quand on est pris par le jugement, on est spécialement sur une scène. Hein. Ça se voit, c'est très très net. Quand on se met à juger, quand on se met ou à écouter ou à interpréter, ou interpréter sa propre action ou l'action des autres acteurs, on perd en faculté d'action et on perd en ce qu'on appelle en présence. Et inversement.
Alors attendez, là ça se bouscule au portillon, parce que là, on est vraiment, c'est très riche, très nourri, et il ne faut pas qu'on oublie Eisenstein. Hein, parce que, alors, Bernard. On n'y a pas été revenu, on n'y est pas encore venu. Oui.
On demande d'imposer en principe le problème suivant, un problème de principe. Je serai assez vite Gunsteinien. On ne peut pas dire ce que c'est que jouer, parce qu'il n'y a que des jeux. Le jouer en tant que tel, ça n'existe pas. On est immédiatement dans un jeu particulier, jamais le jouer tout seul. Je crois personnellement, je raisonne comme ça. Ce qui pose une technicité du jeu. Le jeu est technique, il est d'emblée dans l'artifice, il n'y a donc pas d'essence du jeu. Deuxièmement, je me souviens de quelqu'un qui avait inventé, François Pachet de Sony Music, pas de Sony Music, du centre de recherche de Sony, avec lequel j'ai travaillé avec Vincent Puig quand j'étais à la direction de l'IRCAM, parlait de jouer-écouter, en disant, pour vraiment écouter une musique, il faut la jouer. Et pour vraiment jouer une musique, il faut l'écouter, mais ça n'est ni jouer ni écouter, c'est jouer-écouter. Troisièmement, ce que vous disiez à propos de l'entretien sur le fils naturel, et donc de Dorval, de toute cette scène, etc., c'est qu'il faut rappeler ce que disait Denis, évidemment, c'est que justement, il n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il est posé en principe, et c'est pour ça qu'ils peuvent être dans cette scène dialogique, ça, c'est une espèce d'idéal, cette scène-là. Il est posé en principe, mais ça ne marche pas dans la réalité, que le comédien et le personnage ne font pas différence. Et ça ne marche pas précisément, puisque la mort intervient, etc. Et ça n'est que dans cette situation où il peut y avoir ce dialogisme dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, moi je dirais que on ne peut pas se passer du public. C'est-à-dire que celui qui peut regarder pour le comédien, qui le lui délègue, c'est parce que moi je pense comme toi, je suis un diderotien au sens paradoxe sur le comédien. Je pense qu'on ne peut pas regarder, écouter, ni rien faire quand on joue. C'est ce que vous venez de dire, c'est pas possible. c'est pas possible. Mais du coup, il y a un partage du sensible, si on devait reprendre un terme de Rancière. C'est le seul que je reprenne, mais celui-là, je l'aime bien. Il y a un partage du sensible, c'est-à-dire qu'il faut déléguer, et c'est déjà présent dans Aristote, d'une certaine manière, à mon avis. Il y a une distribution des rôles, il y a une instanciation des rôles, et on doit compter sur l'autre. Le comédien compte à la fois sur le public et sur l'auteur de la pièce, etc. On doit compter sur les autres comédiens pour qu'il y ait un agencement qui ait un jeu qui s'instaure entre eux, etc. etc. Et je terminerai en redisant, parce que je tiens à dire quand même pourquoi j'ai proposé à Denis de prendre en charge ce séminaire. C'est à cause de la fin de « Le théâtre est-il nécessaire ?» et de la question de finalement « Pourquoi jouons-nous » Et la question de l'amateur, puisque moi je porte ici au sein du Centre Pompidou une question de réactivation du sujet de l'amateur, où il y a toute une histoire des amateurs qui est peut-être tout aussi complexe que l'histoire des comédiens, l'histoire de etc. Et je pense que un comédien, ce qu'on appelle un comédien amateur ou même un peintre amateur ou enfin un artiste amateur, c'est quelqu'un qui essaye de tenir plusieurs rôles, c'est-à-dire qu'il est à la fois, c'est d'abord un spectateur. C'est avant tout un spectateur. Il a avant tout besoin du régal d'être dans cette réception, cette attitude de public. Mais en même temps, il ne peut être public, il ne peut se constituer comme public qu'en passant sur les planches. Et à l'inversement, il ne peut accéder à ce qu'il aura fait sur les planches qu'en retournant dans la scène. Donc ça circule. C'est un circuit. Et voilà, cette figure d'amateur m'intéresse pour ça. Et moi, je dis, un grand comédien, c'est d'abord un amateur, de ce point de vue-là aussi.
Alors, excusez-moi de jouer un petit peu
le monsieur loyal, là, de l'affaire, loyalement, autant que je peux. C'est-à-dire que je voudrais bien... Là nous avons une matière énorme hein, dans l'articulation qui a été proposée par Joris, dans la réaction que tu viens d'avoir et dans tout ce qui s'est dit avant. J'espère que vous voudrez bien... que nous soyons là les uns et les autres pour essayer de rentrer dans cette question, même je dirais assez profondément, au moment de la séance prochaine. Parce que je tendance maintenant à penser, c'est une question extrêmement compliquée, je le sais, enfin je le sais, je le devine. J'ai tendance à penser qu'on peut, pour s'aider à clarifier les choses, penser qu'il y a deux Diderot. Hein. Il y a un Diderot, celui dont nous parlons ici, qui est curieusement celui sur lequel Eisenstein va se articuler sa réflexion. Celui de le Diderot de 56-57, disons, hein, le Diderot des entretiens, en un certain sens, discours sur la poésie dramatique, de ces deux pièces, de ce moment. Et à l'autre bout, alors je sais que je durcis une chose qui est beaucoup plus complexe que ça. À l'autre bout, le Diderot du paradoxe, dont j'aimerais bien que nous discutions sur le schéma que tu as proposé, hein, d'effectuation, d'interprétation. J'aimerais vraiment, vraiment que nous revenions là-dessus, parce que là, il y a vraiment une discussion en profondeur que nous avons à mener. Que bon, Bernard vient d'engager là, exactement. Je sais que c'est compliqué parce qu'en fait, quand on dit comme ça, on dit les entretiens et le paradoxe, à peu près 20 ans de distance, enfin un peu moins, ce qu'on squeeze, c'est les salons, c'est les textes sur la peinture et que toi tu as lu de très près. Et je sais que là, si tu veux, c'est beaucoup plus compliqué à situer quand on situe l'articulation par rapport à l'esthétique plastique et donc à l'affaire du tableau. Je sais bien que cette affaire est plus compliquée, mais. Pour le dire comme ça en clair, il me semble que, disons, il y a ici une tentative, mais qui joue avec elle-même, et qui joue d'elle-même en un certain sens, d'annulation de la différence représentative, mais il joue avec ça, hein, c'est ça qui est très beau, il a, croit pas seulement au premier degré, et d'autre part, une tentative au contraire d'accuser, de durcir, de, tu vois, de... Parce qu'au fond, je ne vais pas engager la discussion, mais pour moi, le problème, c'est de savoir si ces deux positions, elles sont... A priori, transcendantalement, elles peuvent être confondues ou elles doivent être alternées, même d'une seconde à l'autre, tu vois. Même dans une espèce de variation comme ça, tu vois. L'alternance, la variation de point de vue, c'est exactement ça. Mais est-ce que c'est une alternance, y compris très rapide, ou est-ce que ça peut être confondu? Alors, si vous me permettez, oui.
Juste une phrase, c'est que ce prologue, on peut le lire du point de vue des acteurs, comme on l'a lu, on peut le lire du point de vue du spectateur caché aussi, et de ce point de vue-là, si on relit le prologue, c'est tout à fait. Compatible avec le paradoxe, hein. c'est la même chose.
Oui, je sais que tu es d'accord avec ça. Je sais que vous êtes d'accord avec ça. Bon, alors attendez. Alors, si vous permettez, même si elle est fausse, si, même si elle est fausse, hein, permettez, parce que je voudrais que nous venions au cinéma, je trouve, bon, d'abord parce que nous avons la chance d'avoir Youssef avec nous, et puis parce qu'il y a quand même une chose que je trouve très importante pour ce que nous voulons tenter de dire les uns et les autres. Parce qu'en fait, alors, c'est peut-être faux ce modèle, mais admettons-le un instant pour voir ce que, pour essayer de voir la question que je crois qu'on pourrait adresser à ce texte d'Eisenstein. Peut-être il y a, bon, je vous propose ce modèle, peut-être faux, on va en reparler. Il y a un premier et un deuxième Diderot, et un premier Diderot qui rêve et qui joue et qui annule cette différence, et un second Diderot qui accuse la différence entre le joueur et le joué. Ce qui me trouve, que je trouve extraordinaire dans le texte d'Eisenstein, c'est que, pour Eisenstein, dirait-on, si on a bien lu, le cinéma est l'accomplissement, la réussite de ce que le théâtre, le premier théâtre de Diderot échoue. C'est-à-dire que le cinéma arrive à obtenir, petite réserve près que je me ferai tout à l'heure, mais arrive à obtenir ce que justement Diderot, ce dont montre Diderot, justement, Diderot montre génialement que dans un certain sens ça échoue. Alors, si vous me permettez, je voudrais commencer par un petit truc qui n'est pas au centre du texte d'Eisenstein. Vous n'avez sans doute pas pu lire, sauf les gens qui le connaissent, comme Youssef ou comme les gens qui l'ont déjà eu, vous n'avez peut-être pas pu lire en entier avant. Je voudrais commencer par un petit point qui était évoqué dans la discussion à l'instant sur la question de la commémoration. La commémoration comme pour soi-même, pour les enfants, pour le chien. Et pour... Je voudrais remarquer une chose. Il l'évoque allusivement dans le texte. C'est que ces gens qui rejouent ce qu'ils ont vécu, pour que ça soit porté pour le... Hein, c'est en fait, en un certain sens, Youssef, je parle sous votre contrôle, ce que les soviétiques ont fait pour faire filmer la révolution d'octobre, ou dans Eisenstein, c'est-à-dire que les images d'archives ou d'actualité que la plupart du temps nous utilisons pour voir la révolution d'octobre, c'est des images qui datent non pas de 1918 à ma connaissance, mais de 1928, c'est-à-dire des images qui ont été où les soviets ont fait rejouer la révolution pour la filmer, en un certain sens. Hein. Et il y avait cette espèce de... Tu vois, comme si le cinéma venait là... tu vois,
comme De Gaulle quand il refait l'appel des étudiants.
C'est ça aussi, pourquoi? Parce que De Gaulle, il a re...
Tout ce qu'on, à chaque fois qu'on entend De Gaulle faire l'appel des étudiants, c'est un enregistrement qu'il a fait.
Après, voilà. Voilà. Alors donc, il y a le cinéma aurait cette, ou la technique, je sais pas quoi, reproductive aurait cette capacité d'assumer ce que Diderot voudrait faire ici, assumer à la remémoration, y compris pour soi-même, pour les enfants, pour les, c'est-à-dire de faire comme si au fond c'était pareil, quoi, avoir joué le truc 10 ans après la Révolution d'octobre ou là-bas. Non, c'est ils ont un.
Oui, enfin, c'était la technique aussi de Staline, de refaire toujours l'histoire. Avec les images.
Mais pour revenir à ma citation d'Aristote de tout à l'heure, je pense que donc il y a la différence qu'il peut y avoir entre l'existence de la photographie et le théâtre, c'est que la photographie, c'est ce qui s'est trouvé devant la caméra. C'est-à-dire que c'est comme de l'ordre de l'histoire, c'est de l'ordre de la mémoire, ce qui a existé donc avant d'être. Et tandis qu'au théâtre, ce qui devrait être, pourrait être. Donc il y a cette différence, et c'est pour ça que donc, il y a cette possibilité de remémoration ou remémoration complètement fictive, parce que l'histoire de Potemkin est fausse dans le film de Eisenstein, et puis Octobre, ça a été complètement coupé, changé, tous les films ont été non seulement à partir des projets qui étaient déjà falsifiés, mais enfin le résultat encore plus falsifié. Mais ce qui est assez étonnant, vous avez parlé de Diderot, mais je dirais il y a deux Eisenstein malgré tout, parce que quand il écrit ce texte en 1943, il est en train de faire ou préparer, enfin il travaille à Yvon le Terrible, qui est tout sauf ce qu'il écrit dans ce texte sur le cinéma. C'est-à-dire que c'est totalement, et d'ailleurs, même dans sa jeunesse, quand il utilisait des acteurs qu'on appelait les acteurs, l'atelier des acteurs excentriques, c'était tous des typifications, c'était toujours dans un sens très poussé. Et il est possible, et ce texte-là a été écrit par rapport à des étudiants acteurs qui veulent devenir des acteurs du cinéma, et non pas par rapport à sa propre pratique. Parce que Yvon le Terrible, et même en même temps, à l'époque, il préparait une mise en scène de Wagner pour le Bolshoï. Alors là aussi, ça n'a rien à voir avec ce texte. Donc ça c'est la différence. Et par contre, ce qu'il dit à propos du texte des dialogues, enfin de l'entretien, non pas de la pièce, parce qu'il a, il dit la pièce ne vaut pas la peine qu'on la lise, donc personne ne s'amusera à le lire, lui probablement il l'a relu, mais enfin comme il dit, le cinéma c'est le fils naturel légitime donc du théâtre, et ce qu'il dit à propos de cette relation entre le ce que Diderot a imaginé comme une possibilité de théâtre avec un quatrième mur, et donc le cinéma pour le réaliser, et non pas le cinéma d'Eisenstein, mais le cinéma qui a repris à la fois un petit peu la tradition aristotélicienne, un petit peu aussi, c'est un cinéma qui, depuis les origines, à la différence du cinéma européen, qui était lié à des histoires de l'art plus complexes, mais le cinéma américain, c'est dès les premières théories et dès les premières pratiques, c'était un cinéma fondé sur la possibilité de raconter des histoires vraisemblables qui ne dépassent pas l'expérience du public et qui surtout sont dites par des moyens visuels, donc, entièrement. Donc c'est un moyen visuel qui ne dépasse pas l'expérience et qui peuvent être compréhensés par tout le monde. Donc c'est pourquoi d'ailleurs il se réfère aux acteurs américains. Mais alors tout ce qu'il dit sur, par exemple, essentiellement ce qui l'intéresse beaucoup, c'est non seulement sur la dimension du jeu, qui est différent, tel que le décrit Diderot et tel qu'il le reprend, c'est-à-dire que l'idée d'Eisenstein, c'est qu'au théâtre, l'acteur s'adresse à un public, donc il est forcé, même s'il doit avoir, disons, un murmure, il doit crier pour que le murmure passe, tandis que le jeu du cinéma, effectivement, il ne faut pas qu'on joue, il faut qu'on soit en deçà. De l'expressivité, ça c'est sur le jeu, et par rapport ce spectateur invisible qui peut être partout à la fois, c'est pas simplement, il n'est pas derrière le rideau, c'est qu'à chaque moment la caméra peut, et d'ailleurs il dit il est à la fois au milieu et il encercle. La caméra encercle et il est en même temps au milieu. Et là, je pense qu'il a poussé un petit peu le texte de Diderot, mais c'est effectivement ce qui se passe au cinéma. Et autre chose, alors, qui est une extrapolation par rapport, me semble-t-il, par rapport au texte de Diderot, c'est l'importance que Diderot donne. Effectivement, il dit, il faudrait qu'au théâtre, ça soit comme dans un tableau. C'est-à-dire que le tableau, ce qu'on peut montrer sur un tableau, c'est pas la même chose, parce que le tableau, quelqu'un peut être dodo, quelqu'un peut avoir, on peut avoir des dispositions, mais Diderot ne parle jamais de cadre. Eisenstein finit par parler constamment de cadre, c'est la possibilité de découpe à l'intérieur de quelque chose de continu, et ça, ce qui aussi, il prend quelque chose de très intéressant dans le texte de Diderot, et c'est effectivement tel qu'on lit le texte d'Eisenstein et après on lit le texte de Diderot. Effectivement, Diderot parle du cinéma, il a raison. C'est-à-dire que quand Eisenstein dit, quand Diderot dit toutes les étapes depuis l'arrivée du père jusqu'au salon, c'est Eisenstein dit oui, c'est l'unité du lieu, en fait il est force, mais c'est en fait on peut faire une série, ou alors même à l'époque il parle de ce qu'on peut faire avec ciné-panorama, d'ailleurs c'est ce qu'on a appelé juste quelques années après, c'est le plan séquence, d'ailleurs vous pouvez faire un, d'ailleurs il dit avec ceux qui n'aiment pas le montage, on pourrait reprendre le texte, parce qu'il y a Bazin qui a écrit des tas de textes contre Eisenstein en défendant le plan séquence, et bon, ben ça c'est effectivement c'est des extrapolations de textes de Diderot, mais ça il a raison, hein, c'est le cinéma dans ce sens là c'est le fils illégitime, c'est le fils naturel du théâtre tel que Diderot le conçoit dans son dialogue.
Je voudrais juste, si vous me permettez, poser une question. La poser à vous, la poser à tout le monde, à partir des points que vous venez d'évoquer. Parce que, chose que je trouve fascinant dans ce texte, absolument fascinant, mais je ne sais pas si c'est vrai. À la limite, c'est un peu comme l'expérience limite de Diderot, elle est fascinante, mais en même temps, on dit, bon, est-ce qu'elle peut réussir ou est-ce qu'elle se dément elle-même ? Alors voilà ce que je voudrais dire. Vous venez de le dire très, très, très clairement, la différence comme ça, théâtre-cinéma, tel que fait l'objet de son texte,
avec tout l'humour, enfin tout. Moi j'adore comment il écrit, enfin, moi c'est magnifique quoi. Et puis il écrit en vers, je sais pas si vous avez remarqué, il écrit en verset Claude Émien. Moi c'est une chose qui m'a toujours beaucoup frappé chez Eisenstein, c'est qu'il écrit tout le temps en verset. Même ses mémoires, même ses textes théoriques, ce sont des versets Claude Émien, toujours. C'est une chose quand même très très frappante, je trouve. Bon, enfin passons. Cette différence, il la pose à deux niveaux. Premièrement, le théâtre amplifie, comme ça, oblige à. C'est un problème d'amplification. Ce que, déjà chez Diderot, me semble-t-il, et au cinéma, on pourrait garder dans une mesure plus proche de la mesure, la mesure du vrai. Hein. Donc, ça, c'est un problème d'amplitude. Comme Diderot, d'ailleurs, qui se plaint aussi, sauf erreur de ma part, de cette même chose. Hein. Donc, voilà, il faut revenir. Puis, il y a un autre problème très différent, que vous avez cité en second. Bien évidemment, je suis extrêmement attentif. C'est un problème d'adresse. Je veux dire ce que je veux dire. La question du quatrième mur. Alors, nous avons retrouvé Kleiman et Albera n'avaient pas la citation. Elle est où, la citation, Julien? Elle est dans le 11, hein, combien? 211. Elle est dans le discours sur la poésie dramatique. Hein. Je vous signale, c'est un truc rigolo, le discours sur la poésie dramatique, la fameuse citation sur le quatrième mur. Je vous signale, c'est amusant, parce que ce qui est amusant, je trouve, c'est que toutes les citations de Diderot qui figurent dans ce texte français que nous avons sous les yeux, les traducteurs les ont reprises à partir du texte de Diderot, la Pléiade. Ils donnent la référence à la Pléiade. Mais cette citation-là, ils ne l'ont pas retrouvée, donc ils l'ont retraduite du russe. Donc ce que vous avez sous Diderot ici, à la première page, là, Diderot a parlé de cinéma, en fait, on voit bien en note qu'ils n'ont pas retrouvé le texte français, parce que bon, c'est pas des spécialistes. Et donc, en fait, c'est pas le texte de Diderot, ça ressemble, mais c'est comme. Alors, le texte de Diderot, le voici. Il est au chapitre 11 du discours de la poésie dramatique, le fameux texte sur le quatrième mur. C'est imaginez sur le bord du théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre, jouez comme si la toile ne se levait pas. Hein, voilà. Donc, c'est la même phrase, mais la phrase de Diderot, elle n'est pas de Diderot. Là. Bon, alors, c'est. Donc cette affaire du quatrième mur, voilà dans la préparation que nous avons faite avec Julien, comment elle nous est apparue. Il me semble que là, bout du compte, vous l'avez parfaitement dit à Youssef par ce rapport entre le centre et l'encerclement, ce que Eisenstein défend comme idée, c'est l'idée au fond que le jeu du comédien de cinéma, de l'acteur de cinéma, ce jeu n'est pas dirigé. Il n'a pas de direction, il n'a pas d'orientation. Il est omnidirectionnel ou non directionnel. C'est-à-dire, au fond, le type qui est au cinéma, il effectue, il agit, pour prendre tes catégories. Il agit. Alors, selon le mot de Julien hier soir, c'est un bien agir. Jouer au cinéma, c'est bien agir. C'est-à-dire, le bon acteur, c'est celui qui agit bien. Mais en un certain sens, il n'a pas à s'occuper d'orienter son jeu vers un regard déterminé, puisque le regard est partout. Ça c'est très juste, il n'est pas seulement derrière le rideau, il est partout, il est potentiellement partout. Au fond, l'acteur de cinéma devrait ne jamais savoir où est la caméra. C'est un peu ça la fiction. Donc au fond, ce qu'il fait, l'acteur de cinéma, c'est qu'il agit. Enfin, je ne sais pas s'il joue d'ailleurs. Est-ce qu'il joue? Il agit bien, il fait ce qu'il fait, enfin, il effectue au sens où tu l'as dit, il effectue ce qu'il fait avec le plus de rigueur possible, il agit pas. Hein. Et il y a un texte qu'on retrouve facilement ici, ça m'a beaucoup frappé parce que c'est le texte, sans m'en souvenir, en fait, je discute ça dans le début d'Actions et Acteurs, c'est que le passage à la scène, c'est le passage à l'orientation du jeu. Parce qu'il y a, sur la scène, une direction du jeu. Et c'est ce qui fait la différence entre un bien agir et un agir scénique. Hein. C'est pas simplement la question de la simulation, qui c'est très articulée, hein, on va en parler, j'espère, à cette prochaine séance, mais c'est la question de l'orientation. C'est-à-dire, si tu es sur scène, le regard des gens, il est quelque part. Donc, tu te situes par rapport à un certain axe du jeu. Hein. Alors, moi, j'ai raconté par Action d'acteur comment on a vécu ça, puisque dans mon expérience de théâtre, on a commencé par rêver un théâtre absolument omnidirectionnel. Le public est absolument dans tous les sens, au début de l'attroupement. Hein. Et donc, je me rappelle très très bien que nous travaillions toujours en disant, on ne sait pas si le spectateur qui va être d'ailleurs. En effet, il y avait des spectateurs qui étaient là, ou qui étaient là-bas, ou qui étaient au-dessus, ou peu importe. Ton problème, c'est pas de où ils sont et de jouer pour eux, c'est d'agir. Hein. Mais au moment où on est passé sur scène, j'ai raconté cette expérience au début d'Actions et Acteurs, ma stupeur a été de voir que d'un coup, il fallait reconfigurer toute la chose par rapport au fait de le projeter dans une direction déterminée. l'adresse, c'est-à-dire l'adresser. Adresser, c'est direction, hein, c'est-à-dire c'est, il faut que ça aille vers là. Donc, adresser, c'est... Alors, c'est en effet un jeu sans adresse, qu'on a appelé hier soir le jeu de la vérité, c'est-à-dire la vérité qui joue avec elle-même sans aucune adresse, d'un côté un bien agir, un jeu de la vérité, et de l'autre côté, un dire à, un exposé, un processus de l'exposition à tous les sens du mot, c'est-à-dire adresser, orienter vers. Alors, ma question est, je l'adresse un peu à Youssef, mais un peu à tout le monde, est-ce que c'est vrai ça pour le cinéma? Est-ce que c'est vrai que cette idée d'omnidirectionnalité, est-ce que c'est vrai que, ou est-ce que c'est une espèce de fiction aussi, de passage à la limite? Est-ce qu'au fond on peut dire que l'acteur de cinéma, ou les acteurs de cinéma en tant qu'ils jouent, ils auraient comme ça, comme Eisenstein le rêve? Est-ce qu'il le fait lui dans Eisenstein, dans Yvan? Est-ce que...
Non, de toute façon, Eisenstein ne le faisait pas, et à l'époque on ne pouvait pas le faire. Disons, même maintenant, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on fait dans les grandes productions, il n'y a pas une seule caméra. Il y a en général une scène est tournée avec plusieurs caméras à la fois. C'est-à-dire les acteurs sont pris des angles différents, sans qu'ils sachent à quel moment ils sont pris, et ils sont pris avec des tailles différentes. C'est-à-dire ce qu'Eisenstein avait imaginé. Mais quand même, malgré tout, avec toutes les contraintes techniques, c'est impossible. Bon, mais ce qui pousse le plus loin dans le fait pour vouloir disparaître, si vous voulez, c'est les gens qui tournent avec une toute petite caméra numérique pour que véritablement les acteurs ne se sentent pas acteurs, c'est-à-dire ne sachent pas qu'ils sont en train de jouer. Parce que vous amenez un appareil avec 40 personnes derrière, il est absolument impossible d'avoir un jeu naturel, enfin, parce que c'est ça l'idée qu'il reprend, un morceau de vie authentique, les choses saisies à l'improviste, etc. C'est possible avec, disons, les petites caméras numériques et encore pas avec des acteurs. C'est-à-dire que ça va, c'est quand par hasard on filme l'assassinat de Kennedy en direct. Mais dès qu'il y a une fiction, dès qu'il y a un projet, dès qu'il y a un scénario, dès que les gens travaillent pendant un certain temps, on n'est plus dans la vie authentique. Ça, c'est toujours cette idée de vouloir quelque chose d'authentique et de naturel. Oui, mais c'est ça, bon, c'est ce qu'on dit là en train de. Bon. Oui. Et pour revenir au rapport avec Diderot, je me rappelle là qu'Eisenstein a fait l'expérience de Diderot. C'est-à-dire qu'Eisenstein a commencé au théâtre. A commencé au théâtre et une des premières pièces de théâtre, enfin, entre guillemets, la première expérience théâtrale qu'il a fait avant d'arriver au cinéma, c'est il y avait eu un accident dans une usine à gaz. Donc il a porté les spectateurs ensuite dans l'usine à gaz, et chaque étape de l'accident, ça a été une sorte de remémorisation de l'expérience de ce que vraiment Diderot voulait. Et ça, il a fait la même chose. Donc après, il a pensé que donc il fallait faire autre chose par rapport aussi avec le cinéma, c'est-à-dire qu'une fonction, disons, pédagogique de connaissances, transformation d'émotions en pensée, en action, qui ne correspond pas à cette vision un peu idéale de spectateur invisible. Mais enfin, disons, pour revenir à votre question, c'est vrai qu'aujourd'hui on tourne dans les grandes productions, d'ailleurs c'est la règle, c'est-à-dire que c'est avec 4, 5, 6, si parfois, et des moyens énormes, mais c'est toujours pour des petits moments, c'est-à-dire que le jeu avec la différence entre le cinéma et le théâtre, le cinéma, même le jeu au cinéma, c'est infiniment plus artificiel dans la mesure où vous jouez des petits morceaux, vous ne savez pas qu'est-ce que vous jouez, très souvent c'est dans le désordre absolu. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas, même pas d'acteur au cinéma. Il y a des formes dans l'image. Et donc, ça, c'est une conception qui, à la limite de la limite, serait valable, disons, c'est ce qui se passe dans les rues avec les vidéosurveillances. On est en permanence maintenant filmé, ou alors les gens qui ont des sitcoms chez eux, qui sont sur Internet, et qui est toujours ouvert, alors on les voit toute la longueur de journée faire ce qu'ils font. Ça serait l'idéal sans spectateur, c'est ça. Parce que sinon, dès qu'il y a un projet quelconque, on rompt évidemment avec
toutes ces supposées naturelles. Enfin.
Parler du football dans un autre séminaire, il y a souvent 32 caméras maintenant sur un stade de foot. Bon, non, ce que je voulais dire, c'est que là, d'abord au cinéma, on ne peut pas se regarder jouer les uns les autres parce que précisément, on ne voit pas. On ne verra qu'après que ça a été déroché et monté. Et souvent, des mois plus tard, et je pense que pour les acteurs de cinéma, ça va être terrible d'être en attente de leur image pendant très longtemps parfois. Parce qu'ils ne savent pas finalement qu'est-ce qui va apparaître. Et c'est comme si ce n'était pas eux qui accouchaient d'eux-mêmes, mais toute une machine dont parlait déjà Walter Benjamin, puisque Benjamin a précisément défini ces choses-là. Mais ce que je voulais dire à propos de ce que disait Youssef, c'est la question du montage, justement. Parce que le montage, c'est un regardeur, c'est un public qui est le metteur en scène et qui regarde dans un après-coup. Et là, je dis ça, c'est pour introduire une problématique, pas pour aujourd'hui, mais pour mémoire, si je veux dire, pour plus tard, dans une autre... C'est ce que j'appelle le passage du synthétique à l'analytique et de l'analytique au synthétique. On en a parlé d'ailleurs dans le séminaire Regard signé plusieurs fois. Et je pense qu'au cinéma... j'avais été frappé moi par un documentaire que Jean-André Fieschi avait fait sur Fellini, où Fellini montrait comment il déroche, comment il travaille à la fin des journées de tournage, etc., comment il coupait le son pour pouvoir bien regarder l'image, et où véritablement on voit comment le régisseur, on dirait en Allemagne, essaye de recomposer synthétiquement la chose, mais en se mettant dans une position de spectateur. Vous parliez de Michael Frayn tout à l'heure. Il y a une question de place du spectateur au cinéma tout à fait originale et qui est liée à une décomposition technique. Voilà ce que je voulais dire.
Le hasard de l'histoire a fait, excusez-moi, j'arrive, le hasard de l'histoire a fait juste pour mémoire, hein, c'est le cas de le dire, pour mémoire, que le même Eisenstein, un de ses très grands films, il n'a jamais vu les rushs. Les rushs. Il a tourné un an, Qu'il va à Mexico, ce qu'on appelle aujourd'hui Qu'il va à Mexico, sans jamais voir un seul rush. Il a tourné à l'aveugle, parce que les bandes partaient et qu'il n'avait pas, la structure pour dérocher. Donc il a tourné un an sans voir les rushs et qu'il n'y a jamais eu de montage. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pu le monter. Le film a été monté, comme on sait, dans plusieurs versions successives. En fait, c'est quand même c'est un objet dont le statut est quand même ça complexe, extrêmement complexe, quoi. Alors il y a Vincent, Sarah. Vincent.
Non, je prends un peu la discussion pour vous, je suis désolé. Mais il me semble qu'il y a aussi peut-être dans cette question du jouant, la question du corps. Sur laquelle finalement il faudrait peut-être revenir, parce que même dans l'expérience que cite Youssef, que je connais bien, de multicaméra dans des contextes très, très artificiels, puisque moi j'ai beaucoup travaillé sur des scènes filmées pour de la réalité virtuelle, par exemple pour de la motion capture, il y a toujours un biais qui est le corps. C'est-à-dire l'homme est fait de telle manière que il a une certaine taille, une certaine direction du regard, qu'on ne peut pas gommer, sauf dans certains contextes qui me semblent assez intéressants et qu'on a la chance à l'IRI de pouvoir étudier actuellement, qui est le domaine de la danse, où précisément, je prends l'exemple de William Forsythe, le danseur, en l'occurrence même lui-même, je ne sais pas si vous êtes allé voir l'installation qu'il a fait au Louvre, où précisément il est filmé par Peter Weiss, je crois, qui est un vidéaste, qui le filme justement en multicaméra, le danseur est visiblement face à aucune caméra. Enfin, il oublie la caméra, je suis sûr qu'il en est conscient, puisque c'est un projet commun avec un vidéaste, donc il sait très bien où se trouvent les caméras. Et en général, je me suis longuement posé, en regardant cette installation, la question où se trouve pour lui la caméra principale. Parce que effectivement, Youssef a raison de dire qu'il y a maintenant des multicaméras, mais il y a toujours quelque part une caméra prédominante qui, à mon avis, reste en raison du corps, en raison de la posture, en raison de notre physionomie. Mais le danseur remet en cause la physionomie du corps, puisque dans le cas de Forsythe, il se roule par terre, il est plutôt en position allongée, et donc on a un sentiment que la caméra dominante n'est plus la caméra frontale, celle de la scène, mais plutôt une caméra qui se situerait au-dessus. C'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de spectacles de danse contemporaine, où finalement la partition chorégraphique, quelque part, même si elle n'est pas écrite, elle est très mal, il y a beaucoup de problématiques de notation de la danse, mais elle est très souvent pensée du haut, comme un plan. Donc la caméra prédominante, si on garde cette notion, se trouve plutôt au-dessus, dans le cas de la danse. Ce serait un cas intéressant à travailler. Bien sûr, on ne fait que commencer ce chantier, donc je vous en livre vraiment des premières pistes, mais à mon avis, on va en tirer des enseignements pour la question que tu soulèves dans ce séminaire.
Sarah,
C'était juste par rapport à la question de Michael Fried. Enfin, je pensais que ce serait intéressant de lire ce que Diderot écrit sur la peinture, quand même. Pour avoir, parce que l'exemple qu'il donne en peinture, c'est la question de la place du spectateur et de savoir où se place le spectateur et si on le considère ou pas. Et Diderot, je résume de mémoire, mais Diderot préconise une peinture où le spectateur ne soit pas, qui ne soit pas orienté en fonction du spectateur. Et donc, l'exemple qu'il donne est très frappant de Suzanne et les vieillards. Ce tableau où Suzanne se sort du bain, se couvre pour que les vieillards qui sont là ne la voient pas. Et dans le tableau que... Je crois que c'est le tableau que Diderot choisit. Il explique que Suzanne est dévêtue pour le spectateur du tableau, puisqu'elle est... Elle est montrée de dos nue, elle se couvre face au vieillard, on voit le visage des vieillards, et le dos de Suzanne qui est complètement nu pour le spectateur. Donc dans ce cas-là, ça, c'est une image assez révélatrice de ce qui veut dire aussi au théâtre.
Oui, si on veut parler de ça, il me semble que ce que Diderot met en scène, ce n'est pas seulement le regard, c'est la croisée des regards, il s'agit toujours d'une croisée, et ça... Ça ne peut pas se montrer, ça doit se discourir. Il doit y avoir un récit de cela. C'est pour ça, dans cette question. Et ça rejoint, ça rejoint un peu la question à la fois de l'exposition, de l'exposé de l'acteur et du cinéma, parce que pour Diderot, la question c'est que qu'est-ce qu'on fait quand on ne dit rien, quand l'acteur il est là? Il ne dit rien. La question, c'est que, est-ce qu'il joue ou pas? Et est-ce qu'on peut être conscient ou pas du fait qu'il joue? C'est-à-dire, je me mets là, si je reste silencieux, et je fais rien du tout. Est-ce que c'est une action? Et dans le cinéma, c'est justement, là, il me semble, c'est le modèle même, un peu, du cinéma, au moins du cinéma américain, où il y a le star qui doit jouer lui-même, finalement. Il ne doit rien faire, il ne doit pas s'exprimer, il doit rester là, c'est Clint Eastwood, un peu. Et c'est ce que dit Hitchcock. Kubrick aussi, il prend toujours les comédiens très mauvais, comme Ryan O'Neill, ou de Marissa Berenson, surtout dans le film Barry Lyndon. Il aime Tom Cruise, quand il a pris Tom Cruise, il a fait exprès. Il adore avoir des comédiens mauvais pour qu'ils ne savent pas jouer, justement. Et ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord, monsieur Chacour.
Au cinéma, effectivement, ce qu'il ne faut pas jouer, c'est la présence. Il faut rester là, il ne faut pas jouer. Et si vous voulez, il y a une différence, c'est que quand au théâtre, on joue, par exemple, on a l'expérience de Hamlet d'Olivier. Hein. Quand vous voyez au cinéma, c'est Laurence Olivier qui est Hamlet. Mais sur la scène de théâtre, Hamlet, c'est Laurence Olivier. C'est que c'est Hamlet qui s'incarne, dans l'autre cas, c'est Laurence Olivier qui complètement intègre Hamlet sur l'écran. Parce que ce qui est sur l'écran, surtout avec, quand on va voir le même acteur dans plusieurs films, c'est, il doit avoir la même physique, le même comportement. Les rôles sont écrits pour les acteurs, les taillés à la dimension pour que ça soit pour tel ou tel acteur. C'est Lauren Bacall, Humphrey Bogart, on leur fait pas jouer autre chose. C'est-à-dire qu'au cinéma, il n'y a pas d'acteur de composition. Au théâtre, un grand acteur est capable de jouer beaucoup de rôles différents. Au cinéma, c'est pas possible. Vous pouvez pas, au théâtre, il est concevable mettons, quelqu'un qui a 2 mètres et qui pèse 150 kilos puisse jouer le rôle d'un enfant de 8 ans. C'est une convention passée entre le spectateur et lui. Au cinéma, c'est impossible. C'est une sorte de certificat de vérité que, soi-disant, l'objectif, c'est pas pour rien que ça s'appelle l'objectif, rend, c'est que c'est ce qu'on voit sur l'écran qui est une chose. Alors, pour revenir à une question, c'est, je pense que le théâtre, il faut l'envisager différemment par rapport à la musique, par rapport à la peinture. C'est-à-dire que si vous allez dans les grottes préhistoriques, quand ils sont allés faire des peintures, ils sont allés dans des endroits où à peine un chat peut passer. C'est-à-dire qu'ils ont fait parfois des peintures que plus personne n'a jamais vues. C'est-à-dire que ça ne s'adresse pas. Il n'y a pas de théâtre sans adresse. Et je pense que quand un musicien joue, un musicien n'a pas besoin de public. Schoenberg avait dit une fois après un concert à Berg ou à Webern, il avait dit dommage qu'on ait besoin des gens dans cette salle pour qu'il y ait une bonne acoustique. Donc voilà, ça c'est le musicien quand il joue, c'est lui-même qui s'écoute en jouant. Il est entièrement dans la musique ou il ne joue pas. S'il fait la moindre attention au public, c'est fini, on ne peut plus jouer.
Laura,
je suis comme il y a eu. Voilà, c'est pas grave. Oui, ça va.
Je voudrais te poser une question. C'est pas toujours très embrouillé mes questions, mais à propos d'un paradoxe, en fait, Eisenstein, quand il dit finalement, en poussant la logique de Diderot jusqu'au bout, on obtient la caméra, en fait. C'est-à-dire un regard, mais qui, en fait, si on réfléchit à l'histoire du théâtre, c'est l'œil du prince, en fait. C'est-à-dire un regard en fonction duquel tout s'organise. Et puis on sait aujourd'hui que la perspective pour nous a gagné dans la mesure où nous voyons toujours des images photographiques, en fait, qui sont... Enfin, pour nous, c'est l'image dominante, c'est-à-dire centrée. Or, il me semble, et en fait, effectivement, si on pousse la logique de Diderot, on va dans ce sens-là, mais au fond, le théâtre, potentiellement, est néanmoins une image sans centre. C'est-à-dire que le regard peut circuler. Exemple qui est d'ailleurs, on a beaucoup de choses sur l'idée que c'est une peinture dans laquelle on peut circuler, enfin, François Sacre de David, de Napoléon. Mais au théâtre, potentiellement, on a encore cette liberté de ne pas être ce regard unique, hein, et c'est potentiel, et c'est effectivement aussi une réflexion sur l'esthétique de la représentation, où potentiellement le public n'est pas amené à sélectionner toujours. Et donc, en fait, le jeu de cinéma est fondamentalement orienté, précisément. Puisqu'il est orienté par le regard unique de la caméra, alors qu'au théâtre, il est peut-être orienté, mais potentiellement, son orientation peut être peut-être plus libre. Est-ce que je suis claire?
Moi, je suis tout à fait claire. Je voudrais essayer de répondre. Non, vas-y.
Non, par rapport à ce que dit Eisenstein. Donc, pour lui, le cadre, la scène de théâtre, c'est un cadre préétabli qu'on remplit. C'est ce qu'il dit. Il y a deux conceptions de cadre. Il y a celui où le cadre est posé. Et puis il y a la conception des Japonais, ou la conception qui est celle qu'elle préconise, qu'il y ait en permanence la possibilité d'un découpe dans une continuité. C'est vraiment les choses continuent comme dans la réalité. On fait un découpage, on découpe un cadre, et donc ce cadre étant constamment mobile, vous n'avez pas ce point de vue unique sur la scène. Alors ça c'est effectif que la question qui se pose, c'est que le découpage plus le montage, ça implique la présence d'un spectateur idéal, entre guillemets. On a dit sujet transcendantal ou je ne sais pas qui, ou quelqu'un qui est le narrateur absent et qui est neutre. Disons, peut-être c'est pas le point de vue royal, parce que le point de vue royal, quand même, avec la loge, surtout parce que ça a été à la limite, quand on a inventé l'opéra, c'était à l'éloge du roi. Ça commençait par l'éloge du roi et c'était par rapport à la loge royale qui était en surplomb sur la scène. Le spectateur idéal du cinéma, c'est aussi le neutre. Neutre. C'est à la fois un idéal et il ne peut être idéal que parce qu'il est neutre. À partir du moment où il y a un point de vue qui apparaît, l'exemple existe. Contrairement au cinéma, par exemple, habituel on peut dire le neutre de cinéma hollywoodien, c'est l'idéologie du rêve américain. Ça, c'est le neutre qui n'est pas un neutre absolu, disons que c'est un... Mais c'est pas, ça ne renvoie pas à, à un point de vue. Ça renvoie à un point de vue qui est même inconscient chez les gens qui le font. À partir du moment où le point de vue devient conscient, je prends l'exemple d'Owels, alors vous avez des images où il y a toujours un regard dans l'image qui est supposée.
Vincent, je ne sais pas si tu as l'intention dans le séminaire d'aborder la question du théâtre filmé, mais le point de vue, bien sûr, est toujours très intéressant. Il y a de plus en plus, d'ailleurs, de pièces filmées. Moi, je me régale toujours de voir à quel point un réalisateur peut être plus ou moins objectif. C'est une des questions qu'on se pose souvent à l'IRI, sachant que le point de vue qu'on pourrait imaginer le plus objectif est celui peut-être du point royal, hein, du point de vue où la caméra est une, ce qu'on appelle une captation de pièces, hein, c'est-à-dire je me mets au milieu de la salle et je ne fais rien. Et bien sûr, aujourd'hui, le film de théâtre va beaucoup plus loin avec des caméras extraordinaires, des zooms qui sont un régal pour le spectateur qui n'est plus le spectateur de théâtre, mais de cinéma.
Alors, pour respecter un petit peu la convention qui nous réunit, et donc entre autres ne pas trop déborder de l'horaire, je voudrais simplement jouer un petit peu mon rôle, et malgré le désir ardent que j'aurais de discuter certains des points, en particulier le point qui vient d'être soulevé par Laura dans son dialogue avec Youssef, je trouve très très important. Alors, on va y revenir d'une façon ou d'une autre. Je voudrais quand même, avant d'arriver au terme de l'horaire prévu, par rapport à la prochaine séance, je voudrais simplement repointer le point où nous sommes arrivés, enfin en tout cas, sur quelle rive nous sommes parvenus, par rapport à la question qui nous est occupée au départ. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait à celui qui le fait ? Qu'est-ce que ça fait à celui qui le fait ? Alors, dans cette différence, telle qu'elle s'est peu à peu articulée, sur la question entre, on peut dire entre cinéma et théâtre, enfin en tout cas entre une certaine idée du cinéma et une certaine idée du théâtre. Moi je suis bien d'accord avec ce que vous venez de dire et je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Très bien. Que c'est une certaine idée du cinéma et une certaine idée du théâtre, un peu typée comme ça, mais qui peut-être ont l'avantage de nous donner des modèles. Dans chacun de ces modèles, qu'est-ce que ça fait à celui qui le fait ? Donc, qu'est-ce que ça entraîne comme position pour celui qui le fait ? Alors, j'envisage deux hypothèses, A et B. La première étant elle-même distinguée en deux. Du côté de ce qu'on a appelé ici le cinéma, ou de ce qui était le modèle avec quatrième mur, donc le modèle omnidirectionnel, tout ça, tout ce qui a été évoqué. Ce qu'est supposé faire celui qui le fait, c'est, retenons pour un instant, je vois deux possibilités, bien agir, c'est-à-dire agir juste, agir avec justesse. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qu'on apprend à ceux qui le font ? On apprend à bien agir. On apprend une espèce de justesse ou de rigueur de l'agir. Hein. Avec pour toutes les nuances qu'on a apportées, par exemple, ce qu'a dit Bernard sur le fractionnement de l'action. C'est-à-dire le fait que l'action est fractionnée par le tournage. Qu'on tourne sans la personne qui est en face, qu'on tourne pas dans l'ordre, qu'on tourne... c'est ça. Donc, mais ça voudrait dire, et on sait que c'est un certain art peut-être de certains acteurs de cinéma... bien agir sur ce fragment, ce moment, agir juste sur ce fragment ou ce moment-là, prélevé en désordre, dans une journée compliquée, embarrassée par les conditions matérielles, toujours, etc. Moi, je suis très admiratif, j'ai vu certains acteurs comme ça, qui attendent au maquillage 5 heures, puis qu'après, qui attendent machin 2 heures, puis qu'après, machin, etc. Bon, au moment où tu rentres, tu as une minute. Donc à ce moment-là, il faut, alors je dirais pour l'instant, mais je sais bien qu'il y a une autre hypothèse que bien agir juste. S'installer dans la rigueur de son propre agir. Hein. Ça, c'est une hypothèse numéro 1. Il y a beaucoup, beaucoup à dire de ce point de vue-là. Par exemple, je trouve que ce qu'a dit Vincent sur la danse, c'est très important. Parce que ce moment-là, ça veut dire... C'est aussi la danse, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est une rigueur... Mais alors, c'est dans la continuité, c'est pas dans l'affractionnement, c'est pas dans l'instant. Ce serait une rigueur de l'agir juste, de l'agir dans son corps, une espèce de mesure, de métrique, de mouvement, de rigueur de mouvement, etc. Et qui n'est pas, en principe... en effet, au même titre que ça peut l'être de l'autre côté, dans notre hypothèse dirigée. Bon. Mais ça, c'est du cinéma et c'est de la danse. C'est pas du théâtre, ni dans un cas ni dans l'autre pour l'instant. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a, du côté du théâtre, et en particulier du théâtre aujourd'hui, du côté de certaines expériences de théâtre, quelque chose qui dirait ce que Joris a appelé tout à l'heure, moi je suis extrêmement sensible à ça, peut-être non pas jouer, mais effectuer, donc faire quelque chose, le faire avec une certaine rigueur, est-ce qu'on pourrait dire le faire avec une certaine justesse. Voilà. Tout ça, c'est la même idée. L'idée que ce qui est demandé, ce qui est attendu, ce qui est proposé,
soit du danseur dans la production de son mouvement, soit de l'acteur de cinéma dans la minute où il va tourner, soit du comédien peut-être dans certaines expériences. Faire, voilà, faire. Première hypothèse. Toujours dans le grand A, il y a une autre hypothèse, celle qu'a évoquée Youssef, c'est par faire, c'est être. C'est-à-dire, c'est la question de la présence. Est-ce que c'est du même ordre, hein? Est-ce que si on demande à quelqu'un, non pas de bien agir, d'agir juste, mais d'être, là, d'être avec le plus de... de présence. Alors présence, comme je dis 14 fois par jour, c'est être devant, c'est compliqué parce que c'est le prae. Prae, c'est-à-dire présence, c'est quand même devant. C'est quand même, il y a une idée directionnelle dans présence. Mais bon, c'est d'être, être là. Bon, dasai, être là. C'est-à-dire être là, exister. On te demande d'exister. Non, exister, il y a encore ex. Mais enfin bon, et voilà. Bon. Tout ça, ce sont des possibilités. C'est-à-dire... Je dirais que dans tous ces cas-là, et peut-être même dans une certaine orientation d'un certain théâtre qui peut nous être très cher, il n'est plus exactement question de différences représentatives, de différences mimétiques, de simulation, de faire comme, et peut-être encore moins de devenir. Il s'agit de faire, ou peut-être à la limite d'être, avec une certaine justesse, avec une certaine rigueur. Ça, c'est une première hypothèse. Hypothèse 1, que je dis, voilà. Hypothèse 2, qui à mon avis s'oppose frontalement à ça, c'est le cas de le dire. Il s'agit ni de bien agir, ni, enfin, ça peut, il peut s'agir aussi de faire, mais il s'agit d'être devant, c'est-à-dire il s'agit d'exposer. C'est la logique de l'exposition, non pas du bien agir, mais de la plus grande ouverture de l'exposition. Sans qu'on parle de le de 1, c'est-à-dire d'ouverture, je ne sais pas quoi, livraison. Moi, j'aime beaucoup le terme de livraison. Alors, on peut dire générosité, on peut ce que veut dire. Bon, c'est-à-dire quelque chose qui est non pas dans sa propre, la logique qu'il y a d'agir bien, mais... donner, si tu veux, dans un certain sens, ou livrer, ou ouvrir, ou présenter, là, pour le coup, présenter, c'est quand même un présent, c'est aussi un cadeau, c'est-à-dire, voilà, c'est hein, vous voyez, c'est quand même deux logiques très très différentes, il y en a une qui est totalement dans l'adresse. L'adresse, c'est ça, hein, c'est-à-dire, j'adresse à, je donne, je sais. Et quand Youssef dit, c'est cet objectif, c'est un objectif de quelque chose qui est sans adresse, hein, et là, il s'agit au contraire de tout dans l'adresse, toute adresse, hein. Je ne dis pas que c'est incompatible, je ne dis pas qu'on peut faire jouer, on ne peut pas faire jouer l'un avec l'autre. Je ne veux pas séparer ça dans des domaines hétérogénéité. Je dis que ce sont des pôles de réflexion, ou disons des modèles, qui me paraissent différents. Parce que si tu veux, si tu apprends, par exemple, si tu dis on va introduire un truc pédagogique dans l'acteur, dans un cas de lui dire ce que tu as à faire, c'est t'occuper absolument pas de qui que quoi, de glace, etc., mais t'occuper de la rigueur de ton agir, de la justesse de ton agir. Et dans un autre cas, tu dis ce dont tu t'occupes, c'est de t'occuper au contraire de livrer au maximum, de donner, d'ouvrir. C'est pas exactement, me semble-t-il. En tout cas, c'est pas le même modèle. Hein. Ça peut peut-être jouer l'un avec l'autre, sans cesse, je sais pas, mais c'est en tout cas pas le même modèle. Dans les deux cas, et là, je crois que le texte de Diderot qu'on vous propose de lire pour la semaine prochaine, la séance prochaine, c'est vraiment le paradoxe. Là, c'est tout à fait ça. Le texte de Diderot est absolument au centre de ça, y compris en propres termes. La question est, qu'est-ce que juge celui qui le fait ? C'est-à-dire, qu'est-ce que juge celui qui agit bien ? Est-il juge de son agir, de son bien agir, du bien de son bien agir ? Ou qu'est-ce que juge celui qui le fait dans sa livraison ? Hein ? Est-il le juge de quoi ? Vous savez que, dans le paradoxe, l'acteur est demandé comme un acteur de jugement. Dans le paradoxe, on pourrait dire, la faculté de jouer, c'est la faculté de juger. On pourrait dire, le paradoxe, c'est le texte. C'est ce qui est paradoxal, d'ailleurs, c'est peut-être le paradoxal du paradoxe, c'est cette assimilation de la faculté de jouer à la faculté de juger. C'est-à-dire, une quinzaine d'années, sauf erreur de ma part, avant le livre de Kant, avant la critique de la faculté de juger, donc dans le même temps historique, et on a vu pointer, mais on le fera plus en détail pour la prochaine fois, on a vu avec Julien des textes qui sont... Le mot jugement est très présent dans le paradoxe. Hein, c'est-à-dire, c'est l'acteur de sensibilité dont il s'agit de s'écarter. Ce à quoi on s'écarte, c'est l'acteur qui est celui qui a du jugement. L'acteur qui est capable d'avoir du jugement. Donc, et ce qu'il fait en tant qu'il joue, c'est qu'il juge. Jouer, c'est juger. Et il juge, c'est exactement ça qu'il fait. C'est-à-dire qu'il juge de ce qu'il a évalué, de ce qu'il a à comprendre. C'est pour ça qu'en un certain sens, il n'est jamais ce qu'il joue parce qu'il le juge sans arrêt. C'est l'acteur critique. Ça, c'est vraiment la production de la critique. Alors, je ne vous dis pas ça pour mettre la question en débat maintenant, parce que, évidemment, si on respecte nos horaires, on doit se séparer.
mais pour dire que ce qu'on vous propose, c'est le modèle exactement inverse, au fond, de réfléchir à la prochaine phase, c'est exactement le modèle inverse. C'est-à-dire, au lieu de ce modèle dont on a, auquel on a réfléchi aujourd'hui, là, dont on a parlé toute la séance, c'est-à-dire d'un modèle où ceux qui l'adressent s'annulent, et donc, en un certain sens, la différence mimétique aussi, d'aller regarder si, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il en est, si, au contraire, elle se creuse, quoi, au fond, et si... si l'acteur, il est supposé sans cesse être au poste de pilotage hein, d'une activité de juger. C'est ce qu'on vous propose comme programme pour notre prochaine séance. Vous vouliez... Oui, Youssef ?
Juste un mot, parce que quand on parle de la différence théâtre-cinéma, il faut quand même tenir compte que du cinéma, il y a des cinémas très différents. C'est-à-dire qu'il y a des cinémas où véritablement l'acteur sait qu'il joue et qu'il juge ce qu'il joue. Il y a des cinémas où il n'y a absolument pas, où vous avez aussi la possibilité de filmer sans que les gens soient absolument conscients et qu'ils sachent qu'ils sont filmés jusqu'à l'autre extrême absolu. C'est-à-dire que vous avez peut-être autant de possibilités qu'au théâtre. Donc il ne faut pas... on a parlé généralement cinéma et théâtre. Il faut tenir compte de ces différences.
Donc oui, moi, juste un mot, parce que tout à l'heure, Vincent insistait sur le fait qu'il y a une caméra dominante, même quand il y a un ensemble de caméras, et je crois que c'est le cas. Là, je voudrais, c'est une question que j'adresse à Youssef. Il me semble, j'ai déjà vu quelques tournages à multicaméra filmés, je n'ai jamais assisté sur le plateau, mais il me semble que le metteur en scène privilégie une caméra toujours. Et qui s'adresse dans sa conduite. Les acteurs, ils s'adressent à eux parce qu'il est une adresse, lui il est un public pour eux. Et on peut jamais, tout comme tout à l'heure Denis montrait qu'on peut jamais éliminer finalement le spectateur, il rentre par la fenêtre. Etc. Là non plus, on peut pas supprimer. Il faut que pour que l'acteur travaille, il faut qu'il y ait un regard qu'il regarde, qu'il se sente regardé, si je puis dire, je parle au cinéma, et par une caméra qui va être privilégiée, même si après coup. En post-production, on va dire on ne prendra pas ça, on prendra autre chose qui est plus intéressant.
Très souvent, il y a la préparation du tournage et ensuite, maintenant, le réalisateur est derrière un ensemble de consoles où il a plusieurs images et c'est ça, il privilégie à chaque...
C'est
la régie. C'est ce qui est en train de devenir aussi au cinéma.
Je crois qu'il n'y a pas de caméra dominante justement dans cette expérience et c'est ça qui fait qu'elle est intéressante. Parce que le danseur est filmé effectivement d'en haut, mais aussi de dos, mais aussi de face, et qu'on retransmet la danse, l'expérience dansée sur trois écrans en référence à Bacon, et que justement, moi j'ai vu un danseur dansant avec son devant, avec son dos, pour le devant, pour le dos, pour en haut, et dansant de partout dans son corps.
Et à cause de Bacon ?
Oui, à cause de Bacon.
Parce que Bacon est à plat, et Bacon est vu de haut, puisqu'il retrace les dessins de Bacon.
De toute face. Enfin,
oui, mais l'aspiration artistique étant Bacon, qui est vue forcément de haut, puisque c'est un tableau qui est à présent à terre, sur lequel le danseur trace avec ses chaussures qui sont équipées de craie, en fait, pour laisser des traces. Donc forcément, là,
c'est quoi l'inspiration?
L'inspiration, c'est le tableau, mais la
Forsyth,
danse.
Danse sur l'aspiration des derniers tableaux de Bacon où il y a.
Merci beaucoup pour cette séance extrêmement riche, grâce à vous. Et au 11 janvier, si vous voulez bien.
Moi, je trouve que ça très bien.